Dans le tempo, nouvelle saison. Da, c'est l'épisode 75.
75.
C'est parti ?
C'est parti, let's go. Let's go.
Bienvenue dans DLT, le podcast des passionnés de musique. Mon cher Daz, on t'a déjà entendu, mais comment vas-tu ? Comment vas-tu ?
Eh ben ça va très très bien.
Tu as passé de bonnes vacances ?
Oui, les vacances c'était chouette. Placé sous le signe du terroir.
Le terroir, très
du canard.
Ah, oh, le canard.
Du pâté.
Ouais.
Et des conserves artisanales que je ne vais pas toucher parce que j'ai moyen confiance.
Du botulisme.
Ouais, j'étais très motivé quand je les ai achetés, mais là finalement je me dis bon,
ouais,
je vais peut-être pas les ouvrir. Ouais. Mais ravi de revenir
pour
à la bouclette.
Cinquième saison Daz qui commence. Incroyable. Cinquième saison.
Ouais, moi je suis pas là depuis le début, mais
non, t'es arrivé au bout d'une vingtaine d'épisodes quand même.
Ouais, 25.
Ouais. 25, tu te rappelles bien.
25, ouais, je suis arrivé au 25.
Écoute, je fais le petit topo parce que tu vois, nouvelle saison, je rappelle un peu quels sont les bails.
Est-ce qu'il y a des changements drastiques opérés
non,
par
drastique,
rapport...
Non,
drastiques,
non. Je pense qu'on est quand même sur une recette particulièrement bien troussée, tu vois, tout fonctionne bien.
Ok.
Un mercredi sur deux, on se retrouve d'âge pour parler de musique. À chaque fois avec des invités de qualité, des invités passionnants.
Des invités passionnés.
Et passionnés.
C'est important.
Des
c'est
invités important, prestigieux, Daz.
C'est vrai ?
Oui. Toujours prestigieux. Moi, j'ai ma Dolores Piche. Prestigieux, ça vous va comme
quelque chose ? C'est vrai
qualificatif.
Que le prestige.
Ça me va.
Ça te va très bien.
On est vraiment bien accueillis.
Très bien,
bienvenue. Bienvenue dans le tempo.
Donc, nous sommes avec Piche, avec Dolores Bacchella également. Merci à toutes les deux d'être avec nous.
Merci à vous pour l'invitation.
On est content d'inaugurer cette saison avec vous. Parce que, alors, je contextualise un poil, Daz.
Ouais, contextualise.
Parce que tu sais,
important.
Cette émission, ça fait 4 ans qu'on l'a fait. On soit régulièrement.
Cinquième saison, mais ça fait 4 ans.
Oui, on débute la cinquième saison.
Ok, ouais.
Tu vois le truc,
ouais,
la mathématique et tout. Tout
ouais, bah, je suis mauvais.
Et en fait, de plus en plus, j'ai l'impression, notamment quand on reçoit des artistes, les gens ont envie de parler de choses de société, voire politique parfois. Je pense par exemple à la question de l'appropriation culturelle qui revient beaucoup dans nos interviews. De plus en plus, des artistes qui nous disent « Moi, ça m'interroge, c'est vrai, cette musique, est-ce que je suis légitime ?»
Berger,
je fais attention.
Ouais.
C'était le cas de Flavien Berger, mais même d'autres. Monomythe aussi, par
Monomythe
exemple,
aussi, ouais.
se questionnait sur le rapport au jazz, des choses comme ça. Et globalement, il y a, chez les artistes, de plus en plus, une forme d'éveil, ou en tout cas de se dire « Et nous, on parle de musique, et je pense que c'est important aussi de refléter ça, de dire « Dans la musique, il y a aussi ça qui traverse la musique, des questions sur le monde qui nous entoure. »
C'est sociétal. De toute façon, c'est dans toutes les sphères, et etc. Et je pense que c'est une bonne chose aussi
ouais,
que ça arrive
bouge,
dans la musique.
Absolument.
Complètement.
Toi, Piche, j'imagine que ça te parle, cette question, parce que t'es musicienne, t'es rappeuse, t'es chanteuse, danseuse.
J'adorerais dire que je suis musicienne, je suis pas véritablement musicienne.
Bah, tu fais de la musique,
je fais de la musique. Donnez-moi un piano, vous allez voir que je suis pas musicienne.
T'es pas instrumentiste.
Je suis pas instrumentiste dans ce sens-là.
Tu sais, nous, on se bat dans cette émission, tu fais de la musique, t'es musicien.
Ok, dans ce sens-là alors.
Ouais.
Après, il y a un truc aussi de légitimité, faut que j'arrive à me légitimer encore un petit peu plus aussi. Un petit peu plus là-dessus.
Et tu performes de toute façon en fait, de plein de manières, notamment aussi dans ta pratique du drag. On le voit que tu es drag queen.
Ouais.
Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans ta musique, puisque tu parles de ton identité dans ton rap, avec un premier EP notamment qui s'appelle Festin Daz, qui est sorti en mai dernier, si je dis pas de bêtises.
C'est ça, parce qu'à boire et à manger.
C'est vrai, il y a boire et à manger dans l'EP.
Je trouve ça un peu drôle. En fait, c'était un des titres du coup de l'EP. Et je me suis dit, j'avais envie de prendre justement un des titres pour nommer en fait l'EP en entier. Et je me suis dit, Festin, j'ai l'impression que c'est celui qui le représente plus de manière générale. Donc, j'ai pris ça. Et du coup, ça me permet de pouvoir caler ça justement dans les interviews et les petits moments à boire et à manger.
Il va y avoir ça aujourd'hui, je pense.
Oui, je pense.
Bah, moyen.
Ça va être de toute façon une discussion assez libre parce qu'on va se questionner. Enfin, nous, quand on a découvert ta musique, on s'est dit. Enfin, moi, j'avais jamais vu une personne qui s'affirme drague et qui est rappeuse en même temps.
C'est pas le milieu le plus tolérant, on va
alors,
dire.
Je vais dire en tout cas en France, parce que tu vois par exemple aux États-Unis. Alors, je sais pas si c'est une personne drague, si elle pratique le drague, mais Mickey Blanco, par exemple, qui est une personnalité LGBT en tout cas dans le rap américain, vachement importante. Mais dans le rap français, je connaissais pas d'équivalent, par exemple.
Alors, je pense pas qu'il y avait énormément d'équivalents, en tout cas qui se revendiquaient drag queen, pour le coup, parce qu'on a plein de personnes, etc., et de performeurs qui peuvent aller dans des styles qu'on pourrait dire un peu plus urbains, etc., ou street, et qui peuvent avoir des représentations de leur genre qui diffèrent, etc. C'est plus vraiment l'appellation drag queen en soi qui renvoie du coup à une autre discipline artistique. artistique, et la base vient du cabaret, etc. C'est vrai que de se revendiquer de ça et de faire du rap, ça c'est un peu nouveau.
Ouais, c'est nouveau, on est d'accord.
Enfin, c'est nouveau. En tout cas, j'aurais pas la prétention de dire que je l'invente, etc. On va dire surtout que j'ai la chance d'être la personne qui a le plus de visibilité, en tout cas par rapport à ça. Donc j'ai la chance d'essayer de vulgariser la chose le plus possible.
D'ailleurs, je termine avec ça avant de présenter aussi Dolores qui nous accompagne. Parce que toi, tu es à la base formé surtout la danse, si je dis pas de bêtises. Mmh. Tu as fait des conservatoires.
Je suis complètement danseur à la base, ouais. Et de ballet en plus. Donc on est vraiment encore sur autre chose. Ouais, mais oui, moi j'aime bien tester des trucs un peu différents et bouger tout le temps. Je faisais déjà du twerk sur les barres de danse classique à l'époque. Donc il y avait vraiment il y avait tout ce truc là où je savais que j'allais être un gros melting pot de pas mal de choses et j'essaie de le montrer maintenant dans ma musique. Du coup.
Et ensuite, tu participes, enfin, tu donc formé à la danse, ça t'amène globalement au monde du spectacle, tu découvres le drag.
Ouais,
ouais, c'est dit rapidement.
Ouais, carrément. Mais, il se passe plein de choses entre les deux, mais oui, c'est ça, c'est à la base. Du coup, je viens véritablement de la danse et c'est vraiment ça après qui m'a amené dans le milieu du spectacle et tout. Et de manière générale, comme je disais, j'aime beaucoup évoluer, je me sens vite enfermé dans certains carcans, même dans la danse, même dans l'art, on peut se retrouver enfermé et avoir la sensation de tourner en rond en fonction de ce qu'on fait, de sa discipline, des choix qu'on fait, tout ça dans la vie. Et c'est là que le drag, en fait, a absolument tout changé, parce que du coup, dans le drag, on peut être absolument ce qu'on veut, se redécouvrir tout le temps. Un soir, on peut être comédien, le lendemain, on peut être chanteur, le lendemain, on peut être danseur, ventriloque. Peut-être qu'un jour, je ferai du didgeridoo quelque part, quelque part ailleurs dans le monde, etc. Je sais pas, en fait, c'est ça qui est génial, en fait, c'est que le drag, ça permet d'arriver, j'ai l'impression, pas au bout du chemin, mais en tout cas, au bout de ce chemin qui nous permet ensuite de pouvoir véritablement aller où on veut. C'est un champ des possibles qui
est...
Ouais. C'est vraiment ça. Et en plus de le faire sous quelle forme qu'on le souhaite, en étant absolument nous-mêmes. C'est vraiment génial.
Bon, en tout cas, tu as eu de la lumière aussi grâce à une émission assez célèbre en France qui s'appelait Drag Race France. T'as été une des participantes. Et puis on t'a vu aussi récemment à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques où tu dansais, tu performais aussi.
Yep.
C'est déjà l'instant polémique.
Non, c'est vrai que ça a créé une polémique.
Ça a créé une polémique.
On peut en parler.
Une panique morale.
Parce qu'on va parler principalement de rap et de musique, mais on va voir que parfois il peut y avoir un peu de tension bien au-delà du rap. Mais ça, on pourra en parler aussi avec Dolores. Dolores qui est journaliste. Merci Dolores. Désolé, on présentait un peu piche.
C'est normal.
Dolores, t'es journaliste. Tu mêles dans ton travail journalistique, culture, société, et notamment les questions de genre sont importantes dans ton travail. Je sais que tu as collaboré avec beaucoup de médias, alors parfois, il y a quelques années, parfois encore actuellement, etc., mais je peux citer RFI, France 24, Libération, Mediapart, puisque tu bosses en tant qu'indépendante au sein de différents médias. Tu t'intéresses beaucoup à la musique.
C'est ça.
Connais bien le rap. Et puis en plus, j'aime bien, parce que ça, c'est un truc qu'on pourra utiliser aussi, cette expertise, c'est que tu aimes bien aussi les scènes américaines, ce qui se passe aux États-Unis.
Oui.
Et c'est vrai qu'on va interroger aujourd'hui le genre et le rap. Et il y a quand même, je ne sais pas si on peut parler d'avance, mais en tout cas, il y a une plus grande diversité, plus d'artistes peut-être aux États-Unis. Et que ce serait intéressant en tout cas de se pencher sur ces scènes-là aussi, je pense, pour faire, si ce n'est un parallèle, en tout cas se dire voilà vers quoi peut-être on peut tendre aussi.
Ça peut être aussi dangereux de comparer des industries qui quand même sont à des tailles quand même assez différentes. Par contre, déjà de fait, le rap, c'est une musique qui est née aux États-Unis, qui a été ensuite importée en France par divers acteurs. D'ailleurs, il y en a certains qui sont un peu surprenants, mais voilà, l'origine de cette musique, elle n'est pas sur le territoire. Après, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup dire que la France est le deuxième marché mondial.
J'allais le dire.
De cette musique et de cette culture, parce qu'il n'y a pas que le rap, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'il y a quand même à l'œuvre aussi les mêmes tensions, les mêmes, et notamment sur la question qui nous occupe. Et par exemple, on est dans une année où le rap, notamment celui que les femmes proposent, a été celui qui a été le plus dans le top, dans les hautes sphères des charts, des tops. Et donc, il y a toujours ce questionnement sur la qualité musicale.
Sur, quand c'est les femmes.
Quand c'est les femmes, il y a toujours cette. Donc là, par exemple, même ce succès-là est toujours vu à l'aune de. Oui, mais c'est parce que de l'autre côté, la musique rap en général est en train de perdre un peu de la suprématie qu'elle a eu ces dernières années au profit d'autres musiques qui sont en plus des musiques plus dites du sud, le reggaeton, ce qu'on appelle dans un très large comme ça fourre-tout l'afro, l'afrobeat, etc. Donc, il y a toujours une suspicion derrière le succès, et d'autant plus quand ce sont les outsiders, les personnes minorisées, qu'elles soient de genre ou qu'elles soient non blanches. Et ne parlons pas, en fait, de toutes les autres, de tous les autres stigmates qu'on pose sur les personnes qui, en fait, sont littéralement pas des hommes blancs, cis, hétéros, etc.
Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ton travail, c'est-à-dire qu'à la fois la question du genre peut t'intéresser, mais globalement, des personnes minorisées, effectivement, liés à leurs origines, etc. Je pense à une plateforme que tu as cofondée, si je dis pas de bêtises, l'Afro,
oui.
Qui justement met en avant les cultures noires et les afro-descendants en France.
C'est ça.
Et vous avez, parce qu'il y a aussi un lien avec la musique, c'est que vous avez créé un festival,
oui.
Le Fresh Woman,
oui.
Où justement vous mettez en avant des femmes afro-descendantes, mm. et avec des concerts, des ateliers, des choses
c'est
comme ça.
Ça. Nous, en tant que journalistes, on s'était questionnés sur... plutôt que de dire, par exemple, qu'on n'était pas contente du traitement médiatique qui était alloué, en fait, aux personnes qui peuvent nous ressembler, on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose qui, déjà... parce que parfois, en plus, on nous demande de travailler dans des conditions qui sont quand même des conditions pas... qui sont quand même assez précaires. Donc, quitte à être précaire, autant travailler pour des choses qui nous intéressent et qu'en plus, on ne voit pas traiter comme on le voudrait. Par exemple, le traitement médiatique des personnes afrodescendantes il y a à peu près 10 ans, parfois, c'était encore dans les pages Afrique des médias qui acceptaient de traiter ces sujets. Ce qui est quand même paradoxal quand on prétend vouloir inclure tout le monde. Donc, cette question de l'inclusion, c'était à double sens. C'était à la fois nous, dans des rédactions ou quand on travaillait auprès de rédacteurs en chef en indépendante, mais c'est aussi le regard et le traitement des personnes qui, je sais pas, qu'elles soient musiciennes ou musiciens, etc., sont des personnes non blanches. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est pour ça qu'on a créé l'Afro. Et très vite, on a eu envie de sortir d'Internet. Et c'est pour ça qu'on a très vite mis en place des talks, des rencontres. Parce qu'on s'est dit aussi, les gens, on parle de la vie des gens. Le journalisme, c'est quand même ça. C'est qu'on regarde le monde et on essaye d'en rapporter ce qui nous paraît être la réalité, la vérité.
Je fais bien de le préciser. Donc là, tu nous parlais du festival Fresh Woman. Et je pense que c'est un truc aussi qu'on va adopter dans notre discussion. Donc on va questionner la diversité de genre au sein du rap. Est-ce qu'il est facile ? Est-ce qu'il y a une représentation LGBT ? Pish, tu veux nous parler de ton expérience, on va écouter ta musique aussi. Ce que je vous propose, c'est que maintenant que tout le monde voit à peu près qui est qui, c'est qu'avant qu'on rentre vraiment dans le pur sujet, qu'on parle de rap vraiment, juste qu'on fasse une première partie un peu sur les termes. Parce que tout le monde, tu parlais de pédagogie d'une certaine manière, d'ouvrir des publics différents, etc. On a parlé de drag queen, on a parlé de LGBT, je pourrais même rajouter le mot queer aussi. Tout le monde ne maîtrise pas forcément très bien ces termes. Par exemple, c'est quoi le drag, Piche ? En quoi ça consiste en fait ?
Waouh !
De manière schématique.
Vous avez 4 heures. C'est très très large. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de définitions du drag aussi. C'est un peu comme chacun et chacune a envie de le voir et tout ça. Moi, avant tout, le drag, c'est un art scénique. C'est vraiment quelque chose que j'associe pour le coup à la scène, même s'il y a des drag queens qui font pas forcément de la scène et qui sont juste sur les réseaux sociaux ou qui peuvent être ailleurs, etc. Mais j'avoue que moi, en tout cas, c'est ce qui me parle, en tout cas, avec le drag. C'est des personnes, quel que soit leur genre, quelle que soit leur orientation sexuelle, etc., qui vont créer une forme de personnage, on va dire. Ça peut être une extension d'eux, ça peut être un alter ego, quelqu'un qui n'existe absolument pas aussi, pour faire passer le plus souvent des messages. En vérité, on va pas se mentir, le drag, c'est, qu'on le veuille ou non, ça reste politique. Dans tous les cas, à partir du moment où on en fait, le simple fait, j'aime bien toujours rappeler ça, que le simple fait de porter une perruque et des talons hauts, mais pas que, parce qu'il y a aussi plein d'autres types de drag. Je veux dire, on a des drag créatures, des drag kings, etc. Il y a pas du tout que les drag queens, c'est juste que la médiatisation, elle est particulièrement faite autour des drag queens, mais il y a pas que ça. Mais le simple fait de mettre une perruque et porter des talons hauts, pour moi, c'est politique. Donc il y a de ça. Et ensuite, du coup, le drag, c'est vraiment une discipline qui pour moi permet aux gens de, voilà, je sais pas, de rêver. Genre c'est un petit peu bête dit comme
non,
ça,
non,
ça me paraît
vrai,
un peu bateau et tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qui fait rêver, quelque chose qui permet d'apprendre avec légèreté, parce que je trouve aussi que malheureusement des fois à cause de la surmédiatisation, etc., on a l'impression que les gens ont accès à certaines informations comme tu disais tout à l'heure et tout ça, mais en fait tout le monde n'a pas accès à toutes les informations. Et en fait le drag, je trouve que c'est une des meilleures manières, c'est un des meilleurs vecteurs pour faire passer des sujets qui peuvent être des fois denses et complexes à traiter, etc., avec une forme de légèreté. Alors on peut faire des débats et des talks qui peuvent durer des heures, etc., mais on peut aussi tout simplement sous la forme d'un lip sync dans une cave ou dans des fois des plus gros endroits, plus mainstream, etc. aussi, faire des shows qui sont très légers, qui sont très cool, dans lesquels on s'amuse et tout ça, et faire passer des messages. Et je trouve, en tout cas depuis que j'en fais, que c'était vraiment, c'est une des manières les plus, les plus fluides pour que les personnes du coup comprennent des choses pour lesquelles, contre lesquelles peut-être elles auraient été réticentes. Par exemple, moi je sais que depuis que je fais du drag, il y a pas mal de personnes qui n'étaient pas forcément éduquées sur les questions de la communauté LGBT, etc., queer de manière générale, et qui du coup, grâce au drag, le voient d'une autre manière. En tout cas, ça ouvre une porte.
C'est une porte d'entrée. Ouais.
C'est une porte d'entrée en fait, et c'est plus simple pour eux du coup, parce qu'ils le voient sous le prisme du divertissement. Ils n'ont pas la sensation du coup qu'on rentre dans un conflit, qu'on est de suite dans un débat, ou qu'il y a une forme ni de condescendance, ni de tout ça en fait, et qu'on n'est pas là pour dire il faut que tu penses comme ça, ou il faut que tu penses comme ça. En fait, on donne des clés et en fait, on fait comprendre aux gens que que ces clés-là, elles peuvent être données aussi avec avec humour, avec légèreté. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que le drag est aussi fort et que du coup, les drag queens ont toujours et les drag kings, etc., ont toujours été fer de lance des mouvements politiques queer et tout ça. Mais aussi, c'est pour ça que c'était les personnes qui étaient les plus visibles, parce qu'en vérité, j'ai l'impression que, même si évidemment toutes les revendications à l'intérieur des communautés sont valides, etc., et qu'il n'y en a pas une plus qu'une autre, mais on voit bien que le drag permet d'aller toucher des sphères qu'on ne touche pas avec d'autres vecteurs, etc.
Et le mêle au fait que ça soit du spectacle, et que le spectacle touche
ça,
un peu tout le monde.
C'est ça, en fait, c'est ça.
Et que ça expose aussi.
Ça expose,
mais alors justement, j'avais une question, ça expose, mais ça te protège aussi quelque part.
Alors ça, je pense que c'est vraiment au cas par cas, ça dépend de chacun, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font du drag aussi parce que ça leur donne une forme de, on aime bien utiliser cette expression, une forme d'armure, etc. Ouais. Et c'est vrai que du coup, il y a de l'empowerment quand on est en drag, c'est, on se sent bien, on se sent encore plus beau, plus belle, etc. Et même sans parler de beauté ou autre, mais je veux dire, on se sent... on se sent fort. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai une sensation de force qui est liée au drag. Mais après, ça dépend. Je veux dire, on peut être en drag et être très fragile aussi, être très blessé, etc. Enfin, je veux dire, il faut pas confondre la paillette avec la santé mentale. C'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Et voilà. Mais ça, c'est vrai que ça aide beaucoup. Moi, en tout cas, biche. Si je devais en parler à la troisième personne, je dirais pas qu'elle m'a beaucoup aidé à ça parce que
tu le vois, pardon, Piche, parce que c'est une forme de personnage que tu as créé, Piche, un extérieur aussi. Enfin, c'est toi et pas complètement. Tu peux en parler de manière détachée comme ça.
Oui, je peux en parler de manière détachée pour le coup. Autant au tout début, quand j'avais commencé, je dis ça comme si ça faisait 15 ans que j'en faisais, mais clairement pas. Mais au début, j'avais pas cette sensation-là. J'avais un peu l'impression que c'était plus une forme d'extension, un petit peu de moi et tout. Et plus le temps passe, on va dire, et plus la notoriété est liée à mon personnage, au plus je le détache aussi un petit peu de ma vie privée, parce que je finis par me rendre compte que après je suis tout le temps là-dedans. Et quand on est tout le temps là-dedans, on peut aussi se perdre un petit peu avec ce truc-là et tout, et c'est hyper important aussi de revenir à soi. Moi, c'est un travail que j'ai fait là récemment, justement, de revenir aussi un petit peu à moi, à qui je suis un petit peu derrière tout ça, et ce bandana et cette perruque que j'apprécie beaucoup évidemment, mais de faire un petit peu la part des choses et me dire que Piche, elle a beau être forte, elle est toujours en avant, etc., sur les débats, les prises de décision et sur la haine qu'on reçoit. Hein. J'ai reçu beaucoup de haine, que ce soit... Enfin, oui, forcément, j'en ai reçu encore plus en Piche que de manière générale dans ma vie, mais j'en avais déjà reçu avant aussi. En vrai, j'en reçois dans tous les cas. C'est juste que Piche, des fois, elle me...
Pourquoi ? Parce que t'étais différente, entre guillemets, ou...
Le simple fait d'être queer, c'est ça vous expose, de manière générale. Et puis, maintenant, c'est différent, mais quand j'étais plus jeune, j'avais moins de straight passing. Enfin, vraiment, dans le sens où je savais rien dire, un peu un straight passing, mais c'est de dire que, genre, quand j'arrive dans un endroit, etc., on va pas m'associer au fait d'être hétérosexuel parce que j'ai pas les codes d'une forme de masculinité toxique, etc. J'arrive pas en faisant des gros checks et des trucs. Ce qui est assez rigolo parce que ça a un peu changé avec le temps, finalement. Et depuis que je fais du drag, j'ai l'impression d'encore plus connecter avec ce que moi j'associe, en tout cas, à ma forme de masculinité. Donc, ce qui est assez drôle parce que, du coup, les gens ont l'impression que, du coup, quand on fait du drag et tout ça, soit c'est une première porte du coup pour, c'est là que les gens confondent absolument tout d'ailleurs, que ça peut être une porte du coup pour les personnes transgenres qui ne se seraient pas encore trouvées, etc. Alors que pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, moi j'ai jamais été aussi bien dans mon identité de genre que depuis que je fais du drag. Et je me considère comme un homme cisgenre et je suis très bien du coup avec mon identité. Et le drag justement m'a encore plus conforté là-dedans. Par exemple, c'est un exemple débile par exemple, mais enfin c'est peut-être pas si débile que ça, mais quand avant, en civil, je me maquillais beaucoup plus. Je pense que je l'associe au fait que du coup il y avait quelque chose que je cachais un peu plus, une forme de je sais pas, quelque chose peut-être que j'assumais un petit peu moins, et maintenant que je fais du drag, je me maquille beaucoup moins, par exemple, en civil. Et j'ai l'impression de m'être beaucoup plus retrouvé, même physiquement. Mmh. C'est assez drôle, mais du coup, ouais, il peut y avoir ce parallèle qui se fait.
Il y a aussi un truc, un point où on doit appuyer dessus, parce qu'on est une émission, on parle de musique, c'est que la musique a une place importante dans le drag.
Ah oui, complètement.
Bah, en fait, tu peux nous en parler un peu? Pourquoi? Enfin,
la musique a une place importante de toute façon dans l'art, hein, de manière générale. Je veux dire, c'est quelque chose, et dans la vie en fait de tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que j'aime à dire, c'est que ça nous accompagne. En tout cas, ça dépend pour qui. Mais je connais très très peu de personnes, et je pense vous aussi, qui n'écoutent pas du tout de musique. On écoute tous plein de genres différents, etc. Mais la musique, ça nous touche forcément.
Mais pas forcément avec le même investissement que dans le cadre du drag, par exemple, où j'ai l'impression que c'est... Il doit y avoir différents types de performances, mais du peu que je connais, souvent la musique est un outil.
Quand même. Parce que c'est vecteur d'émotion. C'est vecteur d'émotion, la musique, etc. Et le drag, c'est que ça. C'est donner des messages, etc. Mais c'est au travers des émotions, en fait. Et ça nous permet d'exprimer plein de choses. Et puis, souvent aussi, je pense que, déjà, il y a la discipline qui est le lip-sync dans le drag, du coup, qui consiste à faire donc un playback et tout ça, qui a été très, très vulgarisé par les émissions comme Drag Race, justement, d'abord aux États-Unis, ensuite en France et dans plein de pays dans le monde, puisque maintenant, il y a plein de franchises absolument partout dans le monde. Et donc, c'est un peu associé à ça. Et en fait, la musique, je sais pas, dans le lip-sync, en tout cas, moi, j'ai la sensation qu'elle permet de centraliser encore une fois un message ou une émotion particulière. C'est des choses que nous des fois on a traversé, genre je sais pas, j'ai une bêtise, on a traversé une épreuve compliquée dans notre vie et tout ça, on a une chanson à laquelle on le lit et qu'on aime particulièrement et tout ça, et du coup pour retranscrire ce moment, on va se servir de cette musique, on va le faire dans un lip sync, et on va même lui donner vie en image avec un visuel. On va pouvoir créer tout un look, tout un univers, toute une identité en fait autour de cette musique. C'est une manière, j'ai l'impression, de la vivre à 1000%. Et de l'incarner, de l'incarner.
Et de le partager du coup aussi.
Oui, complètement.
C'est ça qui est au cœur de la démarche aussi, c'est ça, c'est la communion, le partage.
Et ça, ce serait sur une chanson qui serait un peu plus deep, mais on peut aussi avoir cette espèce de truc-là aussi de. Parce que les queers, on a souvent eu la sensation aussi de pas être à notre place, de pas avoir la légitimité, de pas avoir la possibilité de pouvoir briller comme certaines autres personnes et tout ça, de pas avoir les mêmes opportunités aussi. Et en fait, à partir du moment où vous mettez une chanson, bon, là, je vais prendre un exemple un peu cliché, etc., mais vous mettez une chanson de Britney Spears et vous pouvez du coup la performer comme si vous étiez une espèce de pop star qui remplissait un Bercy. Et tout ça, même si c'est dans une cave, la fantaisie elle est la même en fait. On se sent cette espèce de star qu'on a toujours rêvé d'être, tout ça. Il y a des personnes qui sont là justement pour entendre ça, pour l'écouter, pour le voir et pour le vivre avec nous. C'est une espèce de, il y a un mot un peu en anglais où on dit delusional, c'est pour les personnes qui du coup sont un peu, sont pas vraiment en phase avec la réalité, etc. Ouais. Le drag, il y a beaucoup de delusion à l'intérieur, et mais en vrai c'est une bonne chose. Du coup c'est à la fois une carapace et une manière de vivre notre fantaisie aussi, parce que certaines personnes nous ont pas permis de le vivre, et ça permet le drag permet de faire ça, c'est absolument génial. Je vous conseille d'ailleurs, si vous avez l'occasion, de mettre une perruque, des talons, prendre la musique que vous avez toujours rêvé de performer, quel que soit, je sais pas, ça peut être du Bruno Mars ou n'importe quoi et tout ça, de vous foutre une guitare et puis juste de performer ça devant des personnes. C'est absolument incroyable en termes de sensations. Ça fait peur un petit peu au début. Ça fait peur un peu au début, on est tous un peu shaky, etc. Bon, moi j'ai un parcours qui est un peu particulier, donc c'est encore différent, mais pour les personnes qui venaient pas du tout des milieux artistiques et de la scène et tout ça, c'est génial. Ça permet de faire quelque chose qui pensait pas atteignable ou pas faisable, parce qu'il faut dire aussi qu'à la base, souvent le drag, c'est pas forcément des personnes qui viennent du coup du milieu d'artistique ou de la scène.
À l'inverse de toi, qui était vraiment du spectacle à la base.
C'est ça. Moi, pour le coup, la scène, c'était pas nouveau pour moi. Par contre, le fait de le faire en drag, et je vous assure, c'est tout réapprendre. Donc vraiment, il y a quand même une forme de nouveauté. Mais c'est vrai que souvent, je sais pas, ça peut être pour Patrick ou Patricien, informaticien, informaticienne de 40 ans, qui en a ras le cul et qui fait du 8h, 19h tous les jours, etc. Et qui en fait vit une expérience qu'il ne revivra jamais sans avoir besoin de se lancer véritablement dans le milieu du spectacle, d'aller là-dedans. En fait, encore une fois, on en revient à cette histoire de légèreté en fait avec le drag. Ça peut être pris très au sérieux, comme ça peut être pris de manière très très légère, mais dans tous les cas, le bénéfice qu'on en retire, il est hyper important, lui.
Mais c'est un exutoire en fait, du coup aussi,
Complètement.
Pour s'échapper.
Complètement.
De sa
et puis c'est aussi la possibilité de se retrouver dans des safe spaces.
Ouais.
Et dans les endroits du coup dans lesquels on n'est pas jugé.
On parle de safe space, oui, c'est des endroits où on est à l'aise, où on ne sera pas agressé.
C'est au-delà, d'être à l'aise, ouais. En fait, c'est ça, c'est des endroits dans lesquels on se sent surtout en sécurité. Avant tout, parce que bon, même dans les safe space, on peut se sentir des fois moins à l'aise pour X raisons, etc. Dans l'humain, ça c'est normal, c'est les relations, on est tous. Mm-hmm. C'est quand les gens disent safe space, c'est pas des endroits parfaits, c'est pas ça la question. C'est juste, par contre, d'être dans des endroits dans lesquels on se sent en sécurité. Ou quand on est une femme, on a un peu moins peur du coup de se retrouver agressé verbalement ou sexuellement. Par exemple.
Dolores, tu peux peut-être nous parler, parce qu'il y a un terme qui est apparu lorsque tu parlais du drag, c'est le terme queer. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça désigne exactement? C'est un terme américain, j'imagine, à la base. Mm-hmm. C'est un terme que tu maîtrises et tu peux peut-être nous en parler hein, ou,
Alors,
les deux ensemble, d'ailleurs.
Ouais,
hein.
Ouais, parce que peut-être que c'est mieux quand on est d'autant plus concerné. Mais en fait, il y a beaucoup cette idée de renverser le stigmate. Et à la base, le terme queer, c'était une manière de dire justement qu'on était... Enfin, c'était désigner des personnes qui ne seraient pas dans la norme, qui sont justement à côté, qui sont dérangées. Et en fait, on a pu rien...
C'est péjoratif le terme à la base
sûr, à la base, oui. À la base, oui, vraiment. Et en fait, il y a eu... tout un travail justement et qui est valable aussi dans plutôt des sphères militantes engagées sur les questions des discriminations ethno-raciales, etc., pour renverser le stigmate. Et donc en fait, queer maintenant est devenu plus une appellation pour évoquer la représentation des personnes qui ne sont pas des personnes...
dans la norme.
Et voilà, et ça parle à la fois de la minorité de genre, enfin surtout de la minorité de genre, de la question de l'orientation sexuelle. En fait, ça permet d'englober en fait, tout l'apport qu'on a eu au niveau des sciences sociales sur le fait que y a pas cette binarité de être hétéro ou de ne pas l'être. Il y a tout un spectre qui permet en fait justement d'être qui on veut être.
Est-ce que je dis une bêtise par exemple, vous me dites, si j'adore regarder l'Eurovision. Mmh. Et l'Eurovision, il y a souvent quand même des représentations du genre, etc., assez diverses, une place à des minorités entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire que c'est une cérémonie un peu queer ou qu'il y a une culture un peu queer autour de l'Eurovision ou j'extrapole trop?
Que l'Eurovision a décidé de le prendre.
En tout cas, dans ce sens-là, quand tu dis qu'il y a une culture queer dans l'Eurovision, ça oui, en soi, c'est pas faux, etc., parce qu'on a justement des personnes queer qui sont représentées à l'intérieur, etc. De dire après que c'est un concours queer, non.
Non.
En fait, c'est juste une petite nuance à mettre dedans, mais en effet, du coup, on a des personnes qui représentent la communauté à l'intérieur. Bah, là, justement, par exemple, on a Nemo, du coup, qui a gagné la dernière
Édition.
Enfin, c'est le mot que je cherchais.
mais du coup, on a vu le terme queer, il est flou. Ça représente les personnes qui sont pas dans les codes normatifs sociétaux, mais du
que
coup
que ça soit à propos de leur genre ou de leur sexualité, en gros, si j'ai bien compris.
Ouais. En fait, c'est ça, mais c'est un peu à différencier pour le coup de la communauté LGBT en elle-même.
Ah,
en
oui.
fait, c'est pas ça. La communauté LGBT, ça va signifier du coup les personnes donc lesbiennes, homosexuelles, etc. C'est plus basé sur l'orientation sexuelle, en vérité, cette appellation-là. Et en fait, queer, par exemple, il y a des personnes qui font partie du spectre LGBT que j'associerais pas forcément de prime abord de manière queer.
Et qui se revendiquent pas non plus.
Et qui se revendiquent pas. Il y a des personnes de la communauté LGBT qui sont homosexuelles et qui se revendiquent pas du tout queer. Queer, c'est vraiment à partir du moment où on sort aussi un petit peu du schéma hétéronormé.
Ouais.
Du coup, aussi dans la représentation, dans ce qu'on est, dans la manière qu'on a de s'habiller, de vivre dans les endroits qu'on fréquente, dans les sphères dans lesquelles on évolue, dans les sphères politiques, etc. C'est plus une manière de vivre en vérité la queerness que véritablement une orientation sexuelle.
Mais du coup, est-ce que ça crée pas des conflits au sein même de la communauté d'avoir par exemple des gens qui s'arrogent ce titre-là et qui se revendiquent queer?
On peut avoir du queer washing aussi, oui.
Voilà. Alors que effectivement, il y a, voilà, d'accord. Parce que c'est, tu vois, tu parlais de l'Eurovision. Ouais. Je pense qu'on est un peu dedans aussi. C'est-à-dire que c'était un concours qui était un peu ringue, etc.
Mais les personnes concernées en tirent profit aussi.
Oui, très bien.
Donc ça me va, quoi.
Mais justement, la question, c'est.
En fait, une personne LGBT qui se revendique queer fait pas véritablement du queer washing. En tout cas, c'est complexe. Faudrait vraiment y aller, quoi. Enfin, ou alors, c'est qu'elle est vraiment pas alignée, quoi. Mmh. Par contre, ça peut arriver justement, oui, dans les communautés hétérosexuelles, etc., où on connaît des artistes justement qui prennent tous les codes de la queerness juste pour faire un clip ou juste pour vendre une tournée, etc., parce qu'on sait que ça, du coup, sous couvert un petit peu du « je suis déconstruit », mais qui en vérité le reste de l'année vont pas véritablement s'engager dans nos luttes, etc. Qui vont rester relativement silencieux, etc. Quand il y a des choses et des débats sur lesquels il faut
se
parler.
Positionner,
voilà, on voit aux États-Unis pas mal.
Mais c'est un peu comme, en tout cas, le sentiment, et notamment sur la musique, qu'il y a, c'est comme s'il y avait ça permettait de chapeauter et d'amplifier encore plus l'aspect politique éminemment de ces identités-là. Moi, quand j'entends queer, j'entends aussi tout de suite engagé, ce qui n'est pas forcément le cas de personnes qui sont par ailleurs, qui ne sont pas hétéros, mais qui ne s'en revendiquent pas, parce qu'effectivement, il y a aussi la question des endroits où on va et qui sont aussi en soi, qui peuvent être des actes politiques aussi en soi. On va discuter effectivement, c'est pas juste la question de l'orientation sexuelle, mais par exemple, la manière dont on a de relationner avec des personnes, c'est évidemment pas la même chose quand on se revendique queer que quand on est dans une identité qui est certes non hétéro, mais qui est une identité qui peut être beaucoup plus fixe, tout en étant non hétéro, que quand on se dit queer ou on est dans quelque chose d'un peu plus qui peut être mouvant et qui en fait fait appel à plein d'autres en fait c'est presque plus un univers aussi mental de représentation de que simplement je suis non je ne suis pas hétéro.
C'est une, une culture.
Franchement, on a fait tellement de choses les queers que je pense que maintenant on peut dire qu'on a un peu une culture à nous aussi.
Mais c'est aussi c'est une vision du monde en tout cas.
Ouais, complètement.
C'est une vision du monde qui en tout cas se porte vraiment en faux ou en contre avec la société très normative, très pesante, très raciste et sexiste dans laquelle on vit en fait aujourd'hui.
Clairement.
C'est marrant parce que vous parlez aussi d'une forme, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais d'anticonformisme, en tout cas de revendiquer aussi contre la norme et son droit à existence, etc., voire d'être militant. Moi, j'y vois beaucoup de points. Ouais, dis-moi.
C'est même au-delà de... parce que contre la norme, c'est une chose... Parce qu'il y a aussi un truc, il y a une petite nuance des fois à mettre aussi dans les combats queer, etc., c'est qu'on n'est pas contre...
T'es juste pas dedans,
on n'est juste pas dedans, et c'est une demande d'exister sans justement que les gens soient contre nous. Il y a un peu ce truc-là où des fois on associe les queers au fait de on veut que vous soyez comme nous, on veut que... C'est pas du tout... Les queers n'ont jamais demandé à ce que je ne sais rien, que vous acceptiez aussi, enfin que vous ayez demain décidé de vous poser des questions sur le polyamour. C'est pas du tout ça, enfin c'est absolument pas ces questions-là. C'est juste de se dire voilà, nous on est comme ça, on a décidé de vivre comme ça, etc., parce que vos normes ne nous correspondent pas, etc. Donc on est contre le fait de nous vivre comme ça, on n'est pas contre le fait que vous viviez comme ça. Et c'est une vraie nuance à faire parce que je pense que malheureusement le débat médiatique et tout ça, il est très orienté, il nous oppose en permanence, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont contre nous aussi, parce qu'on est dépeint comme des personnes qui sont contre ça.
Après les réactionnaires,
il y en a de partout,
ils seront toujours contre quelque chose.
C'est vrai que il y a un peu l'impression qu'il y aurait un lobby
qui
agirait dans l'ombre,
wokiste aussi bien sûr,
et qui et en fait qui renverse le pouvoir d'être. C'est comme si en fait les personnes pouvaient imposer plus facilement d'être justement de ne pas être hétéro, et que en fait c'est que ce serait comme si c'était une norme, que enfin une nouvelle norme qu'on voudrait imposer que les personnes
à nos enfants dans les écoles alors qu'en fait
c'est pas ça en fait c'est juste le droit. Et quand tu parlais de revendication, il me semble c'est pas la notion de revendiquer quoi que ce soit, c'est juste de dire laissez-nous être qui on est. Sans être agressé, sans être stigmatisé, sans qu'on nous dise que nous ne sommes pas justement normaux.
Alors, c'est peut-être deux démarches différentes, mais parce qu'en fait j'allais faire un parallèle avec le rôle parfois de l'artiste et de me dire, alors j'ai bien compris, c'est pas le cas du tout de toutes les personnes queer ou LGBT, mais par contre que parfois on peut être aussi dans une revendication de l'anticonformisme pour dire la diversité est riche et positive, laissez-nous, on a envie d'être différent aussi. Alors je sais pas si c'est, c'est pas du tout le cas forcément tous les queers, etc., mais j'y voyais un truc parce que je voulais reconnecter à la musique, et pour moi il y a un truc chez l'artiste comme ça aussi de dire je vais faire un truc qui n'est pas la norme, qui n'est jamais fait, qui va peut-être vous déranger, et je l'ai envie de le revendiquer, de le mettre en avant, de dire regardez comme ça peut être beau aussi. Enfin, truc comme ça qui peut se jouer aussi.
Il y a aussi énormément de conformisme dans la musique.
Bien sûr.
Des gens qui prennent tous les codes musicaux pour rentrer dans une case. Et...
D'où la nuance parfois que certains font en disant il y a la musique qui est un produit, il y a la musique, il y a l'art. Et l'art, lui, se doit d'être anticonformiste, se doit d'être casser le monde, etc. Bon, après, ça, c'est un peu trop élitiste comme vision, je pense, mais je comprends en tout cas qu'il y ait, tu vois, différentes façons d'approcher la musique.
Ce serait relativement hypocrite de notre part, du coup, de vouloir vivre dans notre vie, etc., justement, en étant un peu hors de ces normes, etc., et dans la musique, d'un coup, de re-rentrer dans ces espèces de carcans, en fait. Ouais. On en parlait tout à l'heure, c'est une philosophie de vie aussi, la queerness, et comment on a envie de vivre notre liberté, etc., et en fait, on a envie de le montrer. Et puis, on le sait, la musique fait évoluer les mœurs, c'est quelque chose aussi qui construit le social, etc. Et donc en fait, on sait très bien que c'est aussi grâce à la musique qu'on va construire des mentalités pour demain, qu'on va éduquer des personnes, etc., et qu'on va faire passer des messages. Donc en fait, c'est trop important, c'est-à-dire que ça peut pas être juste en manifestation, mais par exemple, l'exemple des manifestations, etc., il y a des musique qui du coup après sont servis en manifestation, etc., et qui deviennent des hymnes. Mmh. Et les hymnes, ça change des gens, etc., ça change des combats, des débats, etc. Donc c'est trop important, c'est trop quelque chose qui influe les personnes pour qu'on le garde tel qu'il est, c'est-à-dire fermé, etc., parce qu'on le voit encore, même s'il y a beaucoup de choses qui ont évolué sur la musique, même s'il y a beaucoup de personnes qui sont maintenant plus reconnues en étant elles-mêmes, etc., des personnes queer, ça reste encore complexe. Mmh. Et je sais de quoi je parle.
Mais c'est vrai qu'aussi, par rapport à ce que vous disiez, par rapport à ce que tu viens juste de dire, la musique aussi est aussi un reflet de la société.
Complètement.
Mmh. Et du coup, ce reflet-là, quand on le voit, on peut d'autant plus critiquer le conformisme à un endroit, ou le fait que ce soit difficile pour certains types d'artistes de pouvoir avoir les mêmes moyens, même ne serait-ce que financiers, le même type de plateforme pour être entendu, plateforme médiatique, plateforme même la production, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est un reflet, certes déformé, mais un reflet quand même de notre société. Et je pense que quand on voit, c'est pour ça quand on parlait tout à l'heure de la manière dont on a de comparer peut-être les États-Unis et ce qui se passe en France sur notre
c'est
marché.
C'est pas les mêmes sociétés.
C'est pas les mêmes sociétés. Ce qui peut émerger, pourquoi ça peut émerger, c'est pas pour les mêmes raisons forcément. Et après, il y a aussi quelque chose de très inhérent à la musique, c'est que c'est aussi un marché, c'est aussi un business. Mmh. Et que dans d'autres endroits, on a plus la facilité aussi de marketer, d'avoir vraiment ce qu'on appelle littéralement des produits, même avec... donc après, c'est toute la question de la stratégie queerness ou du queerbaiting qu'on peut opposer à d'autres artistes, par exemple, comme des artistes afro-américaines, afro-américains, dont on peut parfois, enfin on entend parfois certaines personnes dire ils se servent de telle ou telle cause pour faire leur business. Mmh. Est-ce que et de questionner leur authenticité, parce que l'artistique, hein, c'est aussi cette question-là, c'est-à-dire qui est authentique, qui ne l'est pas, et encore plus sur les esthétiques dont on parle. En tout cas, le rap, c'est quand même un des débats qu'il y a beaucoup. C'est est-ce que cet artiste qui dit qu'il a volé, que il bibi, que machin, est-ce que c'est vraiment son vécu? La question de l'authenticité, c'est une question qui revient beaucoup sur la légitimité à être cet artiste-là, donc que tu prétends être. Mmh. Mais c'est vrai qu'on oublie que c'est, enfin on oublie, en tout cas quand on, il faut aussi poser le fait que c'est un marché, que c'est une économie, et que on a paradoxalement plus de difficultés alors qu'on est plus sur la question de l'authenticité, l'exception culturelle française, etc. Et d'ailleurs quand on voit ce qui marche à l'étranger, on se rend compte que c'est vraiment des purs produits français, qui ne sont pas du tout dans la recherche justement peut-être marketée, business, et qui arrivent à passer alors qu'ils chantent en français par on va dire l'originalité. Ouais. De la musique, je pense à Aya Nakamura, la French Touch, bon, qui est un projet particulier parce qu'il n'y a pas forcément de paroles, ou parfois c'est en anglais parce que bon, c'est basé sur d'autres musiques qui en fait renvoient aux États-Unis, etc. Donc il y a un jeu aussi de miroir. Mais même quelqu'un comme Niel, des projets comme ça qui ont marché à l'international, ou Chris, on se rend compte qu'on est sur, oui, on veut de l'authenticité, et en même temps, on ne joue pas complètement les règles que jouent les Américains de marketer littéralement des artistes, où après on se pose la question de leur authenticité, alors que ce n'est pas parce qu'ils mettent en avant ci ou ça qu'effectivement, ils sont pas, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas moins ou plus authentiques. Juste, ils jouent un certain jeu qui fait que ça nous parvient, parce qu'ils mettent de l'argent à tel endroit, à tel autre endroit, à tel autre endroit, que le personnage y tient, qu'il y a des choses qui parviennent par les textes, etc. Il y a plein d'artistes à qui on a pu reprocher ça, qui aident des gens à vivre, en fait.
Après, il y a des artistes aussi qui ont... C'est pas le choix, mais il faut dire aussi qu'il y a plein d'artistes à qui, bah, justement, qui ont des bâtons dans les roues à cause de qui ils sont, de ce qu'ils représentent, etc. Donc, en fait, on démarre pas avec les mêmes cartes que les autres. Donc, en fait, at some point, il faut bien qu'on utilise aussi les cartes qu'on a. On nous en a enlevé plein des mains. Donc, il nous en reste quelques-unes. Excusez-nous de nous en servir, en fait. C'est aussi, on a le droit. C'est-à-dire que, surtout quand en plus qu'on voit que ces cartes que nous, on nous a enlevées des mains, on les a pris pour les mettre dans des gens qui sont, dans les mains d'autres personnes qui sont pas légitimes et qu'elles s'en servent.
C'est ça.
Et qui fonctionnent avec ça.
Alors, parle de quel type de carte, pardon? que toi tu vas utiliser.
Par exemple, la carte de la queerness, dans le sens où, par exemple, bah, y a des endroits où on voudra un peu moins de moi, justement, parce que je suis une drag queen qui rappe. C'est intense hein, de faire du rap quand on est une drag queen. Hein. Je peux vous assurer que ça crée une forme forcément un petit peu d'engouement, parce que du coup, c'est un peu nouveau, c'est un peu. J'aime pas dire le mot provocateur, mais dans la tête des gens, ça l'est un petit peu. Alors, bon, moi, je le vois vraiment pas comme ça pour le coup, mais.
Curiosité, en tout cas.
Pour oui, voilà, les gens ont l'impression que ça casse un peu. Ça casse forcément certains codes et tout ça. Mais il n'y a pas d'idée de provoquer. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand les gens me disent en mode tu fais du rap queer, non, je suis une personne queer qui fait du rap. C'est tout. Je vais pas vraiment du rap queer. Ça veut un peu rien dire du rap queer. Je fais du rap comme les autres. C'est juste que les thématiques de mes chansons, on les entend moins dans cette stylistique en général.
Ce que je vous propose, c'est on a à peu près, je pense, établi les bases du débat pour comprendre de quoi on parle, etc. On va passer vraiment à cette deuxième partie. On va parler de rap et de minorité de genre. Tu vas nous dire justement en tant que drag queen, pourquoi c'est difficile de faire du rap, mais
pourquoi le rap même d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait un attrait avant? Pour cette musique-là ou
Ah oui, il faut que tu nous parles aussi de ton rapport au rap, ça c'est clair. Ouais, absolument. Ouais. Mais pour faire une transition, on va s'écouter un de tes morceaux. On peut. Est-ce que tu es d'accord pour dire que Confess, qui est le premier single qui sort d'ailleurs, c'est une forme aussi d'introduction, entre guillemets, à voilà qui je suis.
Complètement. Bon, complètement. Bah, Confess, oui, pour le coup, c'était vraiment ça. En plus, c'était sorti sur la saison 2 de Drag Race et il y avait ce truc-là de je voulais montrer que j'arrive dans le game.
Très bien. Bon, on s'écoute. Piche, Confess.
J'arrive chez les tentes, j'suis tout en haut de la pente. J'ai saigné à la concurrence, j'ai qu'une lèche le cul vu que j'suis grave alléchante. J'sais qu'ils pensent que dans le fond j'pourrais partout niquer. J'aurais trouvé le contraire quand même, un mec en drague c'est un truc de baiser. J'suis la conne la plus raide que t'es jamais vu. Laisse pas traîner ton mec petit, tu veux pas qu'il te laisse en vue. J'me mets mon tempo dans les charts. J'viens tout droit là où ça charcle. Viens pas traîner ou t'as pas pied. Viens pas te baigner avec les sharks. Depuis petit j'pue la fame comme Nicky. J'blante comme Piqué. Ring c'est le top qui est le biche tape. J'arrive en drague, God bless. Talons hauts, minuscule, c'est top place. Tu peux regarder de loin, bête un petit son touch. J'suis la plus bonne de tes copines. J'arrive en drague, God bless. Talons hauts, minuscule.
Le morceau qu'on fait, Spiche.
Je serais jamais habitué, je crois,
à t'écouter.
Alors non seulement à m'écouter, mais en plus à écouter avec des gens.
Ah, c'est dur.
J'ai toujours ce truc de. J'ai pas encore. Ça fait pas si longtemps que ça que je fais de la musique. En vrai. Donc, j'ai encore un
an
truc
à peu
de...
près.
Ouais. Donc c'est encore un truc.
Ton premier single,
de...
en tout cas, il y a à peu près un an.
Tout au jugement, je pense, où je suis très en mode. Ah, vous aimez. J'ai un peu ce truc-là dans la tête, où genre ah ouais, pour de vrai. Je comprends. Des fois... Moi, des fois, je suis un peu surpris des gens qui apprécient. Mais c'est une bonne chose.
C'était important pour toi, d'ailleurs. Avec ce premier morceau de. Alors, tu dis que c'est dans le cadre de Drag Race quand même que tu.
C'est ça, oui. En fait, c'est juste que dans l'épisode 2 de Drag Race, en fait, on a un talent show et du coup, on nous demande de présenter quelque chose. Et moi, j'ai toujours su que je voulais faire de la musique, etc. Et je savais qu'en faisant Drag Race, j'allais me servir de cette plateforme justement pour faire valoir ce que je voulais faire et tout ça. Et là est venue la question de qu'est-ce que tu vas faire ? C'est quoi ta musique ? Du coup, parce que moi, à la base, je chante. Surtout, c'est vraiment ce que j'aime.
On retrouve
faire.
Dans l'EP d'ailleurs, c'est à la fois il y a des moments où ça kick, il y a des moments où ça chante beaucoup. Il y a beaucoup de morceaux aussi qu'on pourrait qualifier de nouvelle pop, entre guillemets, parfois on parle de pop urbaine.
Ouais, bien sûr.
Mais
d'hyper pop, etc. Il y a plein de trucs, il y a un peu un truc fourre-tout un peu avec ça aussi. Mais à la base, moi, c'est vrai que c'est très le chant. Je suis fan des chanteuses à voix des années 80, 90, etc. Toutes les Maria, Whitney, etc. Et j'en passe et autres. Je suis très très fan. Et le rap, c'est venu vraiment différemment pour le coup. En fait, c'est la culture de mon frère jumeau, parce qu'en fait donc j'ai un frère jumeau et c'est avec lui que je fais de la musique. C'est vraiment et du coup la naissance musicale de Piche, c'est vraiment la collision entre un peu son univers à lui du coup et le mien, parce que moi pendant longtemps on parlait de légitimité justement tout à l'heure et tout ça. Pendant longtemps, moi, je me suis pas forcément senti légitime, ne serait-ce qu'à écouter du rap, parce que je me dis, pourquoi moi j'écouterais du rap ? C'est non seulement pas des chansons qui parlent véritablement de moi ou des gens qui me ressemblent. Je me fais même insulter dans la moitié des chansons, donc un peu la flemme. Et les personnes qui les représentaient aussi, je me reconnaissais pas à l'intérieur des messages qu'elles véhiculaient, tout ça. Et alors qu'en vérité, j'ai toujours aimé ça. C'est-à-dire que moi, avec la danse, en ayant fait beaucoup de hip-hop, etc., ça a toujours fait partie de ma culture musicale, en fait, le rap, mais je me sentais pas légitime plus que ça. Et en fait, on en revient au fait que le drag permet de tout faire. Et du coup, le drag m'a permis de me réapproprier ça, en fait, aussi, et de me dire, mais pourquoi j'aurais pas le droit de faire du rap, en fait ? C'est débile parce que si j'essaye de revenir un peu aux racines justement du rap, c'est que c'était quand même un style musical qui était là pour parler de revendications justement. C'était une musique qui a été faite par les personnes qui sont minorisées, etc. Je pense quand même que les personnes LGBT,
techniquement,
on est dedans. En fait, donc j'avais jamais fait cette espèce de lien sur la légitimité. En fait, je me suis dit, si on part de la base, je me suis senti beaucoup plus légitime que ce que je pensais, en fait.
De le reste, tu peux nous en parler. Enfin, est-ce que ça t'étonne que Pich nous dise, dans un premier temps, je me disais que c'était pas pour moi, parce que c'est un sentiment qu'on peut avoir, se dire qu'entre guillemets, le rap est pas forcément LGBT friendly. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais
c'est pas le rap qui l'est pas, mais c'est certaines personnes en tout cas qui sont justement, c'est cette nuance que j'essaie d'apporter maintenant en fait. C'est le problème, c'est pas le rap, c'est les messages de certaines personnes qui se servent de cette stylistique-là, du coup, pour marginaliser d'autres personnes. C'est quand même assez ironique quand on sait que ça vient de personnes qui sont elles-mêmes marginalisées. C'est assez fou de se dire que des personnes qui
c'est
ont
classique comme
Ouais, mais c'est fou de se dire que des personnes qui ont vécu ça, etc., font la même chose avec d'autres personnes.
Les autres, ouais.
Et c'est naze.
Ouais, complètement.
C'est naze.
Ouais, ça t'étonne ce discours ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui peut d'ailleurs, dont on peut parler au sein des scènes rap d'ailleurs, sur la représentation de diversité de genre ou de sexuel? Est-ce que c'est un vrai questionnement et où on se dit parfois peut-être qu'on peut travailler sur l'inclusivité et peut-être être un peu plus ouvert?
Alors oui, on peut le comprendre, mais parce que globalement, une fois de plus, comme la société, cette industrie musicale est quand même particulièrement difficile pour les personnes qui ne sont pas les majoritaires. Donc effectivement, ça peut être compliqué pour plein de personnes, et notamment les personnes qui sont queer, de se dire « Ok, j'y vais ». Pourquoi ? Parce que c'est aussi une discipline qui est très, 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 très basé sur la performance, sur le clash. Alors, on va dire beaucoup moins aujourd'hui.
De moins en moins, quand même.
Mm-hmm. C'est exactement ce que je venais de dire.
Il y a eu quand même le Drake Kendrick, il n'y a encore pas si longtemps.
Non, ça, clash, mais pour un clash Drake Kendrick, t'as Maes en freestyle qui réussit à être nul sur Show Ones, tu vois. Donc,
mais justement, en fait, c'est là où on voit que la base de tout ça reste ça, la performance. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que même une personne qui ne connaît pas Drake, qui ne sait pas qui est Kendrick, qui est pas dans les dramas de l'industrie, qui est pas dans combien il a vendu machin, genre juste ce moment-là qu'il y a eu où c'est un morceau, un deuxième, un troisième, et ça a été clair. Kendrick a terrassé Drake jusqu'à aujourd'hui, même c'est devenu même piquant de lancer Not Like Us en soirée. Voilà, donc il y a quand même aussi vachement ça dans cette culture. Et ce que je trouve quand même assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont en miroir, parce que justement c'est aussi une musique qui a beaucoup été investie par les personnes minorisées, et qu'il y a aussi cette question de l'humour, du décalage par rapport à soi-même, cette question du personnage, de la persona dans le rap, cette manière aussi de se mettre en scène du spectacle. Donc ça fait un peu prof de français de dire ça, mais il y a quand même ça. Et tu parlais de ce clash, il a rappelé que c'était ça en fait. Parce qu'à la fin du jour, on ne sait pas forcément si en fait Kendrick il déteste vraiment Drake. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il a sorti des bases que l'autre, pour l'instant, c'est un peu running. Voilà, Drake est en train d'écrire depuis un moment. voilà. Donc c'est ça.
Ça c'est très américain. C'est-à-dire que aux États-Unis, des artistes peuvent s'allumer sur disque et pas forcément s'allumer IRL s'ils se croisent, alors qu'en France, c'est super compliqué. C'est-à-dire qu'en France, des gens qui se clashent en morceaux, ils doivent se taper à Orly ou n'importe où ailleurs, tu vois.
Ouais, ils le disent beaucoup, ils le font pas beaucoup.
Non, c'est vrai qu'on attend toujours le combat sans règles, l'octogone.
Ouais. Ou en tout cas, c'est encore une fois une question de business. Je pense que vous vous rappelez du beef Nas Jay-Z, qui s'est quand même terminé par Jay-Z. Et puis Jay-Z qui finalement ils finissent par collaborer quelques temps après, avec la suspicion de savoir qui est-ce qui a vraiment gagné, parce qu'il y a quand même toujours des gens qui continuent des menaces. Mais là on est vraiment dans un beef avec évidemment la réalité, et quand même l'aspect artistique. Après, je suis pas du tout en train de dire qu'on doit valider, aimer ça ou pas. Mmh. Je dis que ça fait partie aussi de cette culture, de ce genre musical là. Et après, sur la question purement de la question de justement de la représentation et du fait de se sentir légitime ou pas, d'autant plus quand on est une minorité de genre. Déjà, on le voit globalement dans l'industrie et en particulier dans cette musique. C'est rare quand même encore en France qu'on puisse dire légitimement qu'on est une personne qui est LGBTQI+, AQIA+, sans que ça crée de la polémique, sans que ça crée du harcèlement. Donc c'est un risque aussi à prendre. Et quand on s'inscrit déjà dans une musique qui est principalement encore faite par des personnes qui sont minorisées, notamment sur la question de race et sur la question de la classe, c'est compliqué en plus de venir ajouter que, et on est encore dans des espèces quand même de cadres où, on le sait, il y a des personnes sans doute qui ne sont pas out, et je suis pas du tout en train de dire qu'il faut qu'ils fassent, qu'ils annoncent qu'ils sont gays ou autres, mais on le sait, et on sait aussi ce qui peut en coûter de pouvoir dire que on est une personne qui n'est pas straight, parce que ça coûte.
À ta connaissance, ça peut même exister dans le rap, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui ne vont pas oser le dire.
Évidemment, et c'est pour ça qu'en fait, ce qui est intéressant même dans l'histoire et en France, à tout le moins, parce que aux États-Unis, c'est encore différent, mais c'est que c'est plutôt une histoire de l'invisibilisation des personnes et notamment des personnes minorisées, enfin, qui sont dites issues des minorités de genre, qu'on peut faire et qu'on doit faire. Et c'est toujours les personnes minorisées qui prennent le plus la parole. Donc Piche, mais d'autres aussi artistes qui sont notamment des personnes, en tout cas, qui s'identifient dans le genre féminin et qui sont les plus vocales sur ces questions-là dans leurs textes, mais qui prennent encore des risques et que même quand tu viens leur dire, alors du coup et tout, est-ce qu'on peut parler de ce sujet, ça reste compliqué, alors qu'elles font déjà le pas de dire, bah moi en fait, je suis comme je suis. Parce que au bout du bout, en plus de ça, on vient te dire ouais, mais c'est quoi, tu craches quoi comme bars et tout. Et je parlais tout à l'heure de la légitimité, c'est-à-dire qu'on va toujours questionner la qualité de ce que tu fais. C'est-à-dire que c'est presque un élément qui va venir dégrader le fait qu'en fait tu es une artiste légitime et qu'en plus il y a ça. Donc moi je comprends aussi pourquoi c'est difficile que ça soit un sujet aussi en France encore. Et que quand ça l'est, c'est difficile. Parce que les enjeux et les questions qui sont soulevées à ce moment-là, déjà te mettent en danger, peuvent te mettre en insécurité, et il faut avoir un mental de dingue. Il faut avoir un mental de dingue pour aujourd'hui, dans cette industrie, ne pas incarner juste l'outsider ultime. Mmh. Voilà.
Je précise, parce que nous, je pense qu'on est habitués à ce type de discours. T'as parlé de race, par exemple, à un moment.
Ouais.
Je précise juste
sociologiquement,
que c'est...
évidemment.
C'est-à-dire que c'est une approche en tant que... Oui, social, c'est-à-dire que c'est une catégorie à partir des clichés, des comment la personne est perçue, elle est racisée, etc. On la ramène à une forme de race, mais c'est absolument pas lié à l'existence d'une race différente entre les humains, etc. Précise pour les gens qui ne maîtrisent pas tous ces termes.
Bienvenue dans le cours de socio. Ouais,
et puis pour toutes les nouvelles auditorices du genre qui justement pensent que eux, il ne doit pas y avoir d'autres personnes que les blancs, qui d'ailleurs eux ne rentreraient pas dans
une catégorie spécifique.
Voilà, donc faut toujours penser à l'autre avant de se dire. Mais non, oui, c'est pas un impensé, mais c'est quelque chose qu'on n'aime pas amener parce qu'en fait ça met mal à l'aise tout le monde. Mais en fait c'est l'éléphant dans la pièce. Et la question aujourd'hui des discriminations ethno-raciales dans la société et en particulier dans cette question, enfin dans le genre aussi musical, c'est aussi un des éléphants de la pièce qui n'est absolument jamais abordé.
Parce qu'il y a un élément aussi, tu pourras revenir dessus, mais en fait je pense il y a une histoire de représentation, c'est-à-dire que dans un premier temps tu te dis moi je pense que cette culture, ce mouvement, cette musique, elle n'est pas pour moi, mais j'imagine que s'il y avait eu des exemples, une représentation, que ce soit à travers les discours ou incarné directement par des personnes, la question ne serait pas posée de la même manière.
Ah bah complètement, mais tout passe toujours par la représentation.
Et je pense même, et ça c'est une critique, avec Daz on aime le rap, c'est une musique, enfin on peut pas dire qu'on est dur avec cette musique de manière générale. Par contre je crois qu'il y a un problème, et je parle pas de LGBT, je parle de représentation de manière générale. les femmes typiquement, c'est le cas évident. Dans le rap, on sait que c'est problématique en thérapeute, c'est très difficile de faire carrière, etc. Oui, oui. Et qu'elles sont sous-représentées de manière générale.
Elles sont complètement sous-représentées. Et puis c'est la, j'ai envie d'aller plus loin que ça, c'est la féminité qui des fois pose en fait problème. C'est au-delà de juste être une femme, etc. C'est qu'on associe malheureusement la féminité à quelque chose qui serait opposé aux valeurs du rap. Je mets des énormes guillemets évidemment quand je dis ça, parce que le rap se veut, bah, on parlait tout à l'heure de clash, etc., de forme de performance, donc il faudrait que ce soit dans une espèce de forme de violence, ouais, etc., de masculinité toxique, et on a l'impression qu'une femme peut pas représenter ça, ce qui est complètement...
Si elle prend pas les codes, c'est ça qui est incroyable.
Oui, c'est ça.
C'est qu'il y a plein d'artistes femmes qui ont dû prendre des codes des hommes pour pouvoir exister, si on se rappelle de Diams au début de bien sa sûr carrière, donc avant bien qu'elle sûr pète, quand elle était justement dans les cyphers, on est freestyle, machin, etc. Diams, tout le monde disait, bah, c'est un bonhomme en fait. Ouais. Elle rappe comme un mec, elle s'habille comme un mec, il y avait ouais zéro revendication de la féminité à ce moment-là, parce que c'était son seul moyen d'avoir le pass pour dire, regardez, ok, je suis une femme,
je suis aussi bonne que vous, textuellement, je vous
voilà
découpe.
Voilà.
Et quand après, on a eu le moment Brut de Femme, DJ,
la boulette et tout ça,
voilà, on a les créoles, ouais, un peu plus la coiffure courte mais stylisée,
le survêt de peau de pêche,
avec dans des couleurs un peu plus acidulées, mais ouais, tout en étant quand même, et en même temps, en étant jusqu'à aujourd'hui, la rappeuse qu'on aime bien citer, alors qu'à l'époque, justement, on la critiquait ça, énormément. Pour,
c'est fou de devoir justement encore rentrer dans ces carcans-là pour pouvoir exister, etc., et de se dire que du coup il y a des personnes dans cette industrie qui ont juste décidé qu'ils avaient un problème avec la féminité, et voilà, et c'est une des raisons justement, on parlait tout à l'heure du fait de prendre des risques quand on est une personne queer ou LGBT justement dans le rap, moi c'est ça typiquement, c'est le fait que j'ai envie de faire du rap et c'est ce que je fais et tout ça, mais le fait de le faire avec certains codes de la féminité en plus exacerbés que moi j'utilise dans mon image, etc.
Il y a un des principes du drag quand même, enfin c'est d'exacerber des bah, codes
en tout cas les drag queens, oui, et en tout cas comme moi j'ai envie de le faire, c'est comme ça que je me sens en tout cas. Soit pas...
Parce que c'est pas le cas partout dans le drag. Peut...
Non, ouais, non, non, vraiment, pour le coup, il y a plein de formes de drag. Il y en a vraiment énormément. C'est très différent. Moi, c'est la partie que j'ai choisi d'incarner et tout ça. Et c'est vrai que bah, ça me fait, faut dire aussi ce qui est, ça me fait un peu marrer. C'est ce que moi, je trouve qu'il y a un truc dans le drag où, genre, je trouve ça génial de pouvoir mettre en opposition, justement. Je sais pourquoi je le fais, parce que bah, dans le rap, je sais que dans l'inconscient collectif, justement, il y a tous ces clichés qui sont un peu liés à la masculinité toxique.
Là, c'est ton côté provoque, là.
Là, c'est mon côté un petit peu provoque. Je sais pas pourquoi les gens ont l'impression que, genre, par exemple, quand c'est moi, ils vont un peu l'associer. Bon, je dis quand c'est moi, en vrai, ils l'ont fait avec plein d'autres gens. Je veux dire, Madonna, c'était pareil à l'époque aussi, quand elle faisait ce qu'elle faisait, c'était même pas que dans le rap, etc. Mmh. À partir du moment où on a envie de surperformer le genre féminin, etc., il y a toujours des problèmes. Ça pose toujours des problèmes dans la société, etc., quand on a envie d'incarner ça. Et alors, encore plus quand on le fait dans quelque chose que majoritairement les hommes, cisgenres, il faut dire ce qu'il y est, considèrent comme étant sacré parce que ça doit représenter telle forme de masculinité, etc. Sauf que bah, je ne les laisserai pas faire comme ça, parce que tout à l'heure on parlait de représentation et du fait que moi je connais beaucoup de personnes de la communauté, de ma communauté, etc., qui écoutent en fait du rap et qui écoutent aussi des musiques dites entre grosses guillemets encore une fois urbaines, parce que j'aime pas ce mot pour, enfin je vois pas ce que pourquoi on dit, bref c'est encore un autre sujet qu'on aura, mais j'en connaissais plein justement qui écoutaient ces musiques là mais qui étaient, c'était un peu des guilty pleasures dans le sens où ben voilà, après dans la communauté c'est un peu compliqué de trouver un alignement avec les valeurs qu'on a, etc., et des musiques qui nous plaisent mais qui représentent pas aussi ce qu'on pense et ce qu'on est, etc., ouais, avec des personnes qui nous représentent pas non plus, et en fait j'ai envie un petit peu de pallier à ça de manière la plus humble possible, en me disant ce serait génial en fait qu'à un moment donné bah, tu puisses montrer, dire que tu aimes le rap, etc., montrer une de mes chansons en disant ouais, en plus la personne du coup elle a des textes qui sont engagés, qui parlent de la communauté, qui parlent de nous et tout ça.
La représentation quoi. Vraiment.
Oui, ouais, parce ouais que bah, voilà, il y a des personnes aussi qui n'écoutent, qui sont LGBT, qui n'écoutent que du rap. Et comme on parlait tout à l'heure justement du fait que la musique nous accompagne à plein de moments de vie, je me dis par exemple ces personnes qui n'écoutent que du rap, le jour où elles ont besoin d'une chanson qui leur parle, qui les rend émotives, ouais, etc., ouais, pour un moment compliqué et tout ça, pourquoi elle serait obligée d'écouter du coup une chanson qui parle pas d'eux. Je trouve ça hyper triste, je trouve ça hyper dommage et tout ça, donc en vrai je me suis dit ça va apporter du coup peut-être à ces personnes là bah voilà une porte ouverte, etc., sur ce genre là et tout ça, donc
et d'autant plus que, enfin c'est non seulement je pense que d'un point de vue entre guillemets politique, etc., c'est important de tenir des discours aussi mais Mais en plus, tu peux ouvrir ça, c'est-à-dire que pas seulement à t'adresser, en fait, ça résonne pas seulement avec ton parcours à toi, c'est que ça peut résonner chez le parcours d'autres personnes. Et d'ailleurs, pas forcément
LGBT. C'est ce que j'allais dire, voilà, c'est ça. Parce que j'ai reçu beaucoup de... Justement, c'est ça qui me... Je sais pas que ça me fait plus plaisir, parce qu'évidemment...
Non, mais ça veut dire qu'il y a une forme d'universalité qui est parfois intéressante.
C'est-à-dire que les personnes, du coup... Ce que j'adore, c'est toujours les commentaires des personnes LGBT qui, justement, me disent, pour les mêmes raisons qu'à la base pour lesquelles moi, j'allais pas dans le rap, qui me disent « Moi, j'écoute pas de rap d'habitude parce que nanana, machin, etc. » qui me disent « Mais par contre, toi, je t'écoute, t'es le seul rap que j'écoute. » Ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et différemment aussi, il y a des personnes, moi j'ai des, par exemple, j'ai eu des amis ou des personnes de mon entourage et tout ça qui me disent, j'ai fait écouter ta musique à des gens qui écoutent du rap et tout ça, et je leur ai pas montré la photo, je leur ai pas montré qui c'était, je leur ai rien montré, etc. pour savoir du coup s'ils allaient aimer. Et du coup, voilà, il y a des personnes et ils sont en mode, ça marche, j'aime bien et tout, parce que à la première écoute, ils écoutent pas forcément ce que je dis véritablement et ça reste un peu sur la surface. Ouais. Mais du coup, en fait, le beat les fait kiffer, etc. machin.
L'esthétique musicale.
L'esthétique musicale est là, etc. Ça correspond aux stéréotypes qu'ils ont un petit peu en tête. Et du coup, ils aiment bien, ils hochent la tête et ça fonctionne, tu vois. Donc c'est la preuve qu'en fait c'est juste une forme en fait, et que ça fonctionne, qu'on soit LGBT ou qu'on soit pas LGBT, etc.
Dolores, quand on préparait l'émission, tu as mis le point sur un truc que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'on pourrait s'arrêter et dire que dans le rap, il y a plein de rappeurs qui sont des réactionnaires. C'est-à-dire que, notamment quand ils vont s'exprimer sur les réseaux sociaux à côté, ils vont dire des conneries, etc. J'en connais plein, on pourrait les citer, on les connaît tous.
Oui.
Moi, c'est insupportable de suivre Booba, c'est insupportable de suivre Rof, etc.
Rof, il est... Ouais.
Et alors que c'est des grands artistes, tu vois. C'est...
Oui, mais
les deux que j'ai cités, c'est parmi les plus grands.
Mais en fait, tu peux être un grand artiste et être complètement con sur plein de sujets.
Et ça, j'ai envie de dire, c'est embêtant quand t'apprécies des artistes. Mais... Enfin, ça arrive, quoi. C'est-à-dire que dans plein de genres, d'autres genres musicaux, il y a des gens dont j'aime pas les idées ou qui sont un peu cons, tu vois. On peut rien y faire. Par contre, il y a des éléments qui sont plus systémiques, entre guillemets, que là, on peut questionner. C'est-à-dire que dire, bon, bah, il y a quelques personnes qui ont de sales idées dans n'importe quel domaine, ça existe, et qu'est-ce que tu veux y faire, c'est comme ça, bon, voilà. Ça n'enlèvera pas que c'est des grands artistes. Bon. Mais n'empêche que, bon. Mais par contre.
Ça dépend s'il y a un crime qui est lié au truc, quoi. Oui, non, c'est...
Non, évidemment, on ne peut pas tout accepter.
Bien sûr, non.
Tu as raison. Tu as raison, évidemment, bien entendu.
On n'accepte pas tout.
C'est pas parce que t'es un grand artiste que tu peux faire n'importe quoi. Bien entendu.
Si tu éviscères des chauves-souris, par exemple, ça. Bon,
hein, voilà.
Mais ouais, il y a cette histoire de système aussi parfois. C'est-à-dire que tu as précisé que c'est une industrie aussi, la musique. C'est-à-dire que c'est un commerce. On cherche à vendre des produits. Et que parfois, l'artiste devient un produit en lui-même. Enfin, il y a sa musique, bien sûr, mais c'est l'artiste qui l'avance aussi. C'est un produit
tout le temps, en vrai. C'est très notable sur notamment des DA en maison de disques qui vont demander à un artiste de forcer certains traits, de pousser un peu plus dans une certaine esthétique pour, d'après eux, plaire à une cible un peu vaporeuse, on sait pas trop, tu vois, c'est la fameuse ménagère de moins de 50 ans pour la pub à la télé. Là, c'est la même chose dans le rap. T'as des gens qui arrivent, en fait, avec des codes de masculinité qui sont peut-être pas aussi marqués visuellement, puis on va leur dire, ouais, mais va à la muscu, mets-toi en débardeur, tu vois, muscle bien. Et ce qui est très drôle, c'est que il y a certaines imageries de rap de bonhomme où, en fait, du coup, il surjoue tellement la masculinité que ça peut être complètement accepté dans d'autres sphères, tu vois, et où c'est même parfois crypto-gay, tu vois, quand ils sont comme ça, avec les muscles brillants, l'huile sur le corps, ou qu'ils chantent torse nu dans une cave, machin, etc. En fait, c'est drôle, parce que les mecs sont complètement en décalage, et je sais même pas si parfois ils en ont conscience. Si on parle de Booba, par exemple, qui est allé beaucoup à la salle entre le début de sa carrière et aujourd'hui, quand il fait un Boulbi, et qu'il est torse nu ou tu vois, avec un peu à la 50, tu vois, donc c'est des mecs qui rappent des histoires de gangsters, mais qui sont quand même très dans des codes qui sont très gay friendly, en fait, tu vois,
qui pourraient être queer,
mais complètement. Les mecs qui te parlent, par exemple, tu vois, qui disent, ouais, nous on est des spartiates, tu fais, les frères, par rapport à ce que vous dites dans vos textes, renseignez-vous sur comment ça se passait au niveau de Sparte et des soldats et des liens qu'ils avaient entre eux, parce que
c'est une masculinité qui est fantasmée.
Ben ouais, en fait, c'est ça, mais du coup, il surjoue tellement que...
Mais ce qui est intéressant, c'est que, Dolores, ce que tu m'avais dit, c'est que parfois aussi, c'est eux peuvent réintégrer ces codes, mais on peut aussi leur suggérer que c'est une bonne idée de jouer sur ces codes.
Bien sûr.
Pour leur carrière, par exemple.
Bien sûr. Juste pour revenir là-dessus... En fait, c'est un mouvement de balancier où on doit aussi se rappeler que c'est de l'art. Et par exemple, je pense que précisément cette musique a le droit d'être, de justement d'accueillir des textes où il y a cette masculinité qui est fantasmée. Mmh. Aujourd'hui, la question par exemple de rituel dans notre société, c'est une vraie question. Et on se rend compte, par exemple, avec l'afflux d'un public qui n'était pas le même public qu'il y a quelques années, qu'en fait, cette masculinité qui est certes fantasmée, qui est révérée, etc., mais qui est aussi au cœur, alors pas forcément la masculinité, mais toutes ces musiques-là servent quand même de liant culturel et permettent aussi d'évoquer des choses. Je le dis parce que, par exemple, la communauté afro-américaine a survécu quand même à l'esclavage puis la ségrégation, et qu'en fait, les musiques qui sont sorties de cette communauté sont des musiques qui, aujourd'hui, sont le ferment, le liant, et même ce qui permet aux maisons de disques qui sont cotées en bourse de fonctionner aujourd'hui. Une succession, hein, le blues, le rock, le jazz, le rap, la techno, avec les grandes, à travers la house music.
Toutes les grandes musiques populaires du 20e et 21e siècle viennent de la...
Donc viennent d'un peuple qui a énormément souffert, qui a survécu, qui a donc transporté avec lui des symboles et une manière aussi de continuer à pouvoir faire communauté quand on l'en empêchait que ça puisse être le cas. Et cette question de la masculinité, mais bon, ça, c'est aussi une question avec, par exemple, la notion de ghetto, la notion de comment, en fait, aussi, on a regardé longtemps le corps noir masculin. Puisque comment le regarder, notamment pendant la ségrégation et pendant aussi l'esclavage, évidemment, mais là, c'est quand même un corps qui était un corps dangereux, qui était un corps qui pouvait agresser des femmes, notamment des femmes blanches, donc les femmes du maître. Donc c'était en fait, il y a toujours une suspicion d'agression. Et je veux pas faire la psychologie de comptoir sur les lyrics, etc., mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du motif, qui revient dans cette manière, en fait, de se poser là, avec cette culture du clash, de la battle et la question de la virilité et de la force. Je suis pas en train de dire que c'est quelque chose de bien, mais je suis en train de dire que c'est aussi pour ça que c'est une musique qui fait aussi parle autant, parce que justement elle utilise aussi des codes et presque des trames d'histoire qui sont qui, à mon avis, sont travail l'histoire dans lequel et le contexte dans lequel elles sont nées. Et c'est aussi quand on voit des artistes qui par exemple n'ont pas forcément toujours qui n'ont pas dit vocalement, mais on comprend leur queerness. Par exemple, quelqu'un comme Missy Elliott, on peut pas dire que c'est pas l'une des meilleures rappeuses, l'une des meilleures rappeuses aujourd'hui encore. Là, elle fait que... mais elle a tout gagné. Elle a été induct au Hall of Fame dans sa catégorie. Je crois même que ça a été au niveau du songwriting, en termes de production avec Timbaland.
Est-ce qu'elle se revendique queer, hein, Missy Elliott?
En tout cas, la queerness de son univers est quelque chose qui a beaucoup été étudié, qui a beaucoup été analysé.
Elle laisse une forme de flou, mais en tout cas, elle joue avec des codes dans sa carrière.
Enfin, elle allait à l'inverse des codes qui étaient attendus par les rappeuses de l'époque, genre Foxy Brown ou Lil Kim.
La question, oui, de son originalité. Par ailleurs, elle avait des lyrics qui étaient hyper sexualisés.
Ouais. Mais on pas pense l'image, à... en fait. Ouais.
Bah, en tout cas, c'était, elle décalait là quelque chose qui faisait qu'elle pouvait, jouer dans sa catégorie et tout en étant complètement assimilée à des rappeurs. C'est l'une des rappeuses qu'on a encore aujourd'hui qui peut encore revenir. Là, elle fait une tournée, etc. Et pouvoir dire qu'elle a marqué l'histoire parce qu'elle a amené quelque chose. Donc, quand on parlait de la qualité artistique, on a vraiment une artiste comme ça. Et en même temps, la question de sa queerness, évidemment, dans son univers visuel, est une question qui est étudiée parce que elle a proposé des outfits, elle a proposé des imaginaires qui sont des imaginaires qu'on pouvait pas, dire, ah bah ça c'est le ghetto, etc. Mais c'était quand même travailler, en fait, une imagerie, une esthétique qui était une esthétique qui était très connectée au code du genre, mais qui, en même temps, il y avait ce twist qu'elle a amené, elle, et qui racontait quelque chose, justement, sur sa place de femme et sur voilà, qui en tout cas dégage quelque chose de plus de l'ordre de la queerness et qui fait aussi à quel point aussi c'est universel aussi. C'est-à-dire que même si toi t'es hétéro, tu vas pas dire que Missy Elliott s'est éclatée ce qu'elle fait. C'est impossible de le dire. Et il y a peut-être des signes et des symboles et des choses que tu vas pas capter ou tu vas peut-être pas capter son trajet, son itinéraire, mais tu peux pas dire que ce qu'elle fait artistiquement c'était éclaté. À tout le moins, tu peux dire c'est original, ça m'a interpellé, mais tu peux pas le dire.
On pourra revenir un peu sur les États-Unis. On va bientôt passer d'ailleurs à cette autre partie. Et surtout pour en profiter pour faire cette généalogie de plusieurs musiques, en fait, afro-américaines, qui en l'occurrence ont une place, qu'on retrouve aussi en France d'ailleurs, ont une place pour les communautés LGBT, ont une imagerie queer, etc. On peut évoquer la house, des choses comme ça. On en parlera, mais juste parce que tu parlais en fait de ces postures aussi virilistes que parfois on critique dans le rap, c'est vrai. Et notamment d'ailleurs, on voit que les adversaires du rap, qui prônent une culture légitime dans laquelle on ne verrait pas le rap, les institutions, etc. C'est l'idée aussi de faire passer un peu les rappeurs ou les gens qui aiment cette musique pour les sauvages. Parfois, il y a un peu cette idée.
Complètement. En tout cas, pardon pour te couper pour raccorder à ce qu'on se disait, ce n'est pas parce qu'on affiche et on a un jeu viriliste, etc., qu'on est moins, qu'on est plus dangereux ou qu'on veut plus se mettre en danger qu'un artiste pop qui va être là tout mignon ou qui va... Enfin, je veux dire, quand on pense à des Serge Gainsbourg, quand on pense à des artistes comme ça, qu'on a
révéré, très toxique, en réalité.
Qu'on a, je sais pas, moi, l'album Melody Nelson, où on a une Jane Birkin où en gros, c'est la reprise du mythe de Lolita, la Lolita, etc. Mais plutôt du côté, c'est une jeune enfant et c'est l'histoire d'un homme plus vieux. On suit leur épopée, ils se retrouvent dans un hôtel. Enfin, je veux dire, on est quand même sur des notions qui sont pas des notions, certes, viriliste en apparence, parce que ça dit pas bitch, chat, je sais pas quoi, mais on est quand même sur de la violence et sur de la violence sexuelle.
Giga toxique, ouais.
Voilà.
Et puis, mais ça passe mieux.
Il faut faire attention.
Ça, c'est très souvent sous fond de racisme, en vrai, surtout. Parce que la vérité, c'est que on a des rappeurs blancs, etc., qui disent des choses qui sont aussi très, très violentes et tout. Ils ont toujours une image beaucoup moins violente, en tout cas sociétale, que si c'était
un rappeur. Des casiers.
Et pourtant, et voilà, je veux dire, alors que ça, on sait très bien aussi que c'est ramené à la couleur de peau de la personne.
Tu as dit un truc important aussi, Dolores, par rapport à la violence. C'est-à-dire que moi, j'aborde toujours ce truc de lorsqu'une personne dans sa vie, dans son vécu, n'a pas de pouvoir parce qu'elle n'est pas valorisée dans cette société. Les seuls espaces où elle va pouvoir exprimer une forme de pouvoir et de se redonner de l'importance. Parfois, il passe effectivement par la violence, par ces codes ultra virilistes, etc. Moi, c'est pas le modèle que j'aime personnellement, mais par contre, je comprends la démarche. La question, elle va être plutôt de... Ouais, pardon.
Le virilisme, c'est pas forcément la problématique, c'est le virilisme qui justifie l'exclusion de l'autre. C'est là que ça devient un problème, en fait. Le fait de jouer sur certains codes, c'est pas grave. Moi, je joue l'hyperféminité, par exemple. C'est juste que la différence, c'est que j'exclus personne, en fait, dans ce que je fais. Là où, du coup, on a d'autres personnes qui estiment que parce que, du coup, elles jouent là-dedans, ben, y a que ça qui compte. Et y a que ça qui est légitime. Et c'est ça, le problème.
Mais parce qu'en fait, aussi, il y a quand même cette question-là de... Quand on peut être minoritaire ou minorisé et reproduire les schémas de la majorité.
Ah, mais bien sûr.
Voilà. Donc ça, c'est aussi un peu le sujet dans ça. Mais c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de représentation. Et la question de la représentation dans le rap, c'est quand même aussi beaucoup formaté par ce que demande l'industrie.
Ah oui.
C'est-à-dire que, voilà, là, par exemple, on a tous, ou peut-être pas, mais en tout cas, on a certains regardé une peut-être Nouvelle École pour se renseigner, et on a vu qui a gagné cette année. Et on sent qu'il y a quand même quelque chose où on se dit, est-ce qu'on peut avoir une diversité stylistique de rap?
Je précise parce que c'est un rappeur un peu à l'ancienne, entre guillemets, qui s'inscrit dans les codes historiques du boom bap et de la plume, etc.
C'est ça. Ou,
comment s'appelle-t-il déjà?
Youssef Swatt. Qui est pas un tout jeune premier, hein, c'est quelqu'un qui a quand même déjà une carrière, etc. Donc parfois on va se contraindre aussi à faire quelque chose parce qu'on nous dit aussi si tu adoptes ces codes, on va aussi t'aider, on va financer ceci, on va te donner la parole. Ça, c'est aussi quand même quelque chose d'important. On n'arrive pas comme ça tout seul juste parce qu'on a du talent. Et juste pour finir, par rapport aux personnes minorisées et notamment aux femmes, enfin en tout cas personnes qui s'identifient comme telles, donc voilà,
les femmes.
on voit bien, que encore aujourd'hui, il y a une difficulté. Et par exemple, il y a Vicky R qui avait fait un son pour dire fuck le fuck, qui est rappeuse et qui est aussi une beatmakeuse, qui a dit fuck le rap féminin. Et c'est un peu l'enjeu. Et ce que tu disais tout à l'heure est intéressant sur je ne fais pas du rap queer, je suis une personne queer qui fait du rap. Et donc il y a la question aussi de l'essentialisation. C'est-à-dire à quel moment, d'un coup, alors qu'on vient, on utilise les mêmes codes de cette musique. La question, c'est juste de savoir, est-ce que mes bars, elles sont hard? Est-ce que quand t'écoutes, t'entends mes images, est-ce que tu vois la manière dont j'écris, mon schéma de rime, etc. Est-ce que ça, c'est à la hauteur? Ou est-ce qu'en fait, t'es juste en train de me parler de mon genre ou de ma potentielle orientation?
Et de me réduire à ça.
Parce qu'en fait, je pense qu'en fait, le sujet, il est là. Et sur la question de la représentation, etc., évidemment qu'ils en font, mais le sujet, il n'est pas seulement là-dessus. C'est-à-dire, à un moment donné, la qualité de ce que tu fais, malheureusement, même quand tu fais de la qualité, ça ne parle pas pour toi parce que justement, on va te renvoyer au fait que tu es issu de cette minorité de gens.
C'est-à-dire que pouvoir faire de la musique pas ouf, c'est un privilège pour certains qui n'est pas accessible à tout le monde.
C'est exactement ça la conclusion.
C'est pour ça que c'est cool en vrai de pouvoir être une drague qui fait du rap parce que du coup, c'est plus compliqué forcément pour moi d'enfoncer certaines portes, etc. Mais à contrario, il n'y a aucun comparatif. Ouais. Et comme j'ai aucun comparatif, personne n'attend rien de moi.
C'est toi qui es l'étalon maître en fait de la discipline.
Ça c'est assez cool du coup. J'ai pas ce truc là de genre oui bah du coup comme t'es une drague qui fait du rap, les drags quand elles font du rap bah elles doivent être comme ça ou avec tel code. Les gens sont un peu perdus. Alors forcément du coup il y a un truc où les gens sont quand je me retrouve en rendez-vous n'importe quoi où les gens sont excités par le projet, ils sont en mode ok c'est nouveau, c'est cool, ça a l'air sympa, mais où est-ce qu'on va? Du coup où est-ce qu'on va? Quel est le public? Qui écoute ça? Comment on fait? Parce que du coup on a la sensation, enfin en tout cas les gens se pensent que du coup les queers n'écoutent pas vraiment du rap et on se dit mais du coup les gens qui écoutent du rap ils ont pas envie d'écouter des queers, alors du coup les gens sont en mode
surtout que ça le voit pas comme une critique, mais la musique que t'as proposée sur cette EP elle est relativement conventionnelle dans ses codes de la musique d'aujourd'hui, franchement.
Ah mais complètement, complètement. C'est pour ça que les gens disent en mode, mais les gens me disent, mais tu fais des trucs complètement nouveaux. Mais je fais pas des trucs qui sont si nouveaux que ça, pas du tout même. C'est juste que je porte une perruque et des talons et que je suis une drague. That's it en vrai. Et du coup, les gens ont l'impression que du coup, c'est tout un nouveau truc. Alors c'est cool en termes de marketing, c'est sympa, ça me permet du coup de vendre pas mal de choses, etc. Et tant mieux. Et je me sers encore une fois, on parlait tout à l'heure, ces cartes qu'on m'a enlevées, et ces cartes que j'utilise. Bien sûr que je vais les utiliser, etc. Mais en vrai, en termes de voilà, de sonorité et tout ça, je propose pas forcément des choses nouvelles. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Et là où on verrait par exemple que d'autres personnes qui correspondent physiquement à ce qu'on attend de ces codes-là et tout ça, on va leur ouvrir plein de portes, on va les signer de suite, etc. Bah moi, on va se dire, en fait, je me retrouve à un moment et encore, j'ai énormément de chance. Je veux dire, moi, les gens, ils sont derrière moi, je remplis des concerts, ils sont complets, c'est merveilleux. J'ai énormément de chance avec ce qui m'arrive et tout ça, mais je dois prouver en permanence deux fois plus que n'importe qui. Ça, c'est tout le temps dans mon parcours de vie et tout ça. Et dans le rap, c'est de nouveau le cas. En fait, là, les gens voient que et tout ça. Ils disent, ok, t'as fait ça. Même là, tu fais les JO et tout. Je l'ai pas fait forcément avec du rap, mais je veux dire par là que je prouve qu'il y a des choses quand même que je fais qui sont
vues
et qui sont voilà qui peuvent servir d'eux. Il y a des gens avec beaucoup moins que ça, ils auraient soulevé 14 leviers pour aller à tel et tel endroit. Et moi, c'est pas encore le cas. Je pense que avant que je reçoive une invitation aux Flammes, ça va prendre un petit moment.
T'as un morceau où tu dis que t'es boycotté par Bouscapé et Skyrock.
Qui a finalement fait un article pour le coup Bouscapé, donc je suis très heureux, j'attends Skyrock. Mais et je le prouverai. Mais après, ça, c'est tous les artistes de toute façon aussi. J'attends pas à ce que, sous prétexte que je suis une drague qui fait du rap, du coup, alors on va tout me servir dans la main. Pas du tout. Je vais prouver les choses.
Ça se construit une carrière musicale.
J'ai envie de prouver justement, ça me dérangerait encore plus si on m'ouvrait toutes les portes aussi juste pour ça. Ouais. Ça me dérangerait. Je veux prouver, comme n'importe quel artiste, etc., que je fais du rap. En fait, c'est toujours cette revendication. C'est comme tout à l'heure, on n'est pas contre la société, on veut juste vivre et tout ça. Là, c'est pareil en fait avec le rap. J'ai pas envie qu'on me valide plus parce que je suis une drague. J'ai juste pas envie qu'on me ferme les portes aussi parce que je suis une drague. En fait, je veux juste qu'on me laisse faire du rap tranquillement et qu'on le prenne en fait avec comme n'importe quel autre artiste. En fait, c'est juste ça.
C'est vraiment cette ligne de crête là. Je pense qu'elle est la ligne un peu essentielle et qui est valable une fois de plus pour toutes les personnes minorisées de genre. C'est ne me donnez pas plus de crédit parce que je suis une femme. De toute façon, personne n'a envie d'entendre, de s'entendre dire ah mais c'est parce qu'en fait on avait besoin d'un quota ou du token pas. Un peu différent de la zone, et en même temps ne me fermez effectivement pas de porte, parce qu'on le sait encore, l'industrie musicale c'est encore le boys club, c'est encore des directions qui peuvent être cornaquées par des personnes qui n'ont, même si ça tend à changer, notamment quand on voit ce qui se passe à la tête là en ce moment des grosses majors, il y a quand même des choses qui sont en train de bouger, donc à voir ce qui va se passer, mais je pense que c'est plutôt un signe. Il faut voir si ça se perpétue dans le temps, qu'en tout cas ça est entendu. Et après, il y a quand même une notion dont on a assez peu parlé, parce que c'est aussi ça qui parle aussi, c'est le public. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est logique, hein, les DA te disent ok, mais où on va pour aussi pouvoir proposer des choses. En théorie, ils sont là pour faire en sorte que ton projet soit que t'en sois contente,
accepté
mais
par un public,
voilà, mais que ça
j'en profite juste pour préciser que j'ai un DA qui est absolument merveilleux. Justement, j'étais signé chez Warner, qui de suite a senti le projet, etc., a été justement hyper présent, et c'est pas forcément le cas de tout le monde et tout ça. Et moi, pour le coup, j'ai eu vraiment vraiment de la chance là-dessus.
Voilà. Et surtout avec un premier EP déjà avoir chopé Warner, c'est
ils m'ont signé. Ils m'ont signé avant
c'est
le
pas donné à tout le monde.
Ils m'ont signé avant le pays, ils m'ont vraiment signé juste avec Confess, etc. Parce que justement, Jérôme Brucker, qui est mon DA chez Warner, a senti le projet et tout ça, et qui s'est dit justement là, il y a quelque chose à faire, il y a des messages à transmettre, etc. On tient peut-être quelque chose de nouveau un petit peu, et qui peut apporter vraiment peut-être de l'espoir à certaines personnes. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance pour le coup sur le coup.
On peut passer à cette dernière partie. On va réécouter un autre morceau de Piche. Je te laisse choisir cette fois un morceau qui te tient particulièrement à cœur sur le pays.
Il y en a qui tient à cœur, mais c'est un peu moins.
C'est pas grave, justement. Si
dans le rap, on va rester peut-être dans un truc un peu plus rap. Je dirais Atmosphère.
Atmosphère, très bien. Et ben on s'écoute Atmosphère, et puis ensuite on parle quand même de figures éventuellement queer qu'on peut retrouver dans le rap. Alors en France, je sais pas si on va en trouver, mais en tout cas on pourra peut-être parler des États-Unis. Mais avant, Atmosphère.
Allez.
Atmosphère, Piche.
C'est un peu.
Tout va bien se passer.
Oui.
Ne te regarde pas, t'inquiète.
Chant rap un peu plus.
Terrible atmosphère, et je respire mal d'entendre tous ces commentaires,
Allez, nique son père, j'ai pas de refrain, c'est pour les refrains, je referai tout bien, je connais ça par cœur, tous les jours je choque des têtes, tous les jours je tape du yep, ça m'arrête dans la rue, une photo, un salut, juste pour voir si je suis le même que celui qu'ils ont vu sur l'écran du salon, quand cousin et tonton pleuraient, la France d'avant, la pensant disparue, à bande de cons, j'suis pas le problème, j'suis la solution. J'arrive bientôt, j'suis dans le vaisseau, j'fais en la peau de l'ours malgré le dicton. Heureusement que j'ai pas fait ce qu'on me dictait, j'ai pas choisi la femme et les enfants, sinon à 40 ans j'aurais tout quitté, tu sais combien j'en connais qui le font.
J'avais des frères, maman, père, j'ai abandonné. Y'a de l'enfer que l'enfer qu'on veut se donner. Je reviens sous terre de la terre où ils m'ont embaumé. J'ai cœur de pierre comme mon frère.
Bon, pendant qu'on écoutait le morceau, on a eu une petite information complémentaire. C'est que c'est vrai que ça pouvait prêter à confusion ce que j'ai dit. C'est-à-dire que tu n'es pas signé chez Warner en tant que label, c'est en tant qu'éditeur.
C'est ça.
Il n'y a pas de label encore pour le moment.
Il
n'y
a pas encore de label.
Si les gens nous écoutent, ça, c'est que
ça va venir.
On prendra le temps qu'il faut pour être sûr de signer chez les bonnes personnes. Aussi.
Très bien, très bien. Parlons de ce rap américain avec la représentation LGBT au sein de ce rap. En fait, je pense au R&B aussi. Il y a vraiment est-ce que j'ai une bêtise ou des personnes clairement queer ou LGBT dans le rap français?
Il y en a pas.
Enfin, est-ce qu'il y a quelques personnes revendiquées queer ou LGBT quand même dans le rap français?
En gros vendeur, non.
En gros vendeur,
même plus underground. Est-ce que on a quelques noms qu'on pourrait écouter?
Oui,
Lala Rami.
Lala
Rami, par exemple, oui. Okay. On n'est pas encore sur du mainstream, etc. Mais pour le coup, qui est dans la revendication justement et qui fait partie des personnes queer et qui est dans cette mouvance de musicale là, oui.
Okay. Et après, il y a une artiste qui est entre les deux, en tout cas qui est très plutôt clair dans ses textes, mais c'est Lala Ace.
Oui, je pensais. Ouais.
Lala lesbienne Ace, qui a fait un très beau projet là, qui s'appelait Solstice, avec ce morceau qui s'appelle Licorne, bon, qui est sorti un peu mi-juillet comme ça, mais qui a une espèce d'utopie comme ça, avec un son de système, le sun system. Enfin, il y a tout un univers qui a été développé et qui, je trouve, en fait... justement sur la notion de des autres univers propres justement au monde queer, je trouve que c'est intéressant la manière dont elle se projette dans justement ce monde meilleur, un peu plus beau, un peu moins dur pour les personnes qui sont différentes. Si je veux résumer un peu le projet, qui est évidemment un peu plus complexe que ça, et en plus qui est, je trouve, hyper intéressant, il y a une métaphore filée autour de voilà des pyramides, la notion du solstice, donc toute la question de l'Afrique aussi, de l'Égypte, duquel, parce qu'elle elle est franco-ivoirienne, que je trouve hyper intéressante dans son travail. Et effectivement, en faisant de la trappe, elle avait ce morceau avec la fève, qui a été qui a beaucoup streamé, mais il y a aussi plein d'autres morceaux aussi que je trouve intéressants. Elle développe tout un bestiaire aussi, donc avec la licorne, qui est quand même c'est vraiment pour moi l'archétype de cette figure, de cet animal un peu mythique, un peu mythologique, mais qui en même temps on peut pas dire qu'il a un genre spécifique, qui aujourd'hui est un peu réutilisé comme étant un animal mignon pour les filles un peu kawaii. Mais qui aussi, il y a une notion aussi de puissance, et puis c'est un animal qui n'existe pas. Et je trouve que c'est, enfin, en tout cas, on n'en a jamais vu. Enfin, peut-être que vous, mais moi,
ça
n'existe
pas. Voilà. Ça m'est arrivé rarement.
Mais voilà, je trouve que du coup, il y a quand même, quand on veut un peu développer quelque chose qui peut parler aussi à tout le monde, qui a une vraie proposition artistique avec vraiment un rap que n'importe qui d'autre peut faire, mais bon, elle le fait particulièrement bien, et avec tout l'aspect ego trip, hein. Elle dit je suis la meilleure, quand on écoute on est obligé de dire qu'elle a raison.
Et c'est notre ami Monomythe qui tourne avec elle en ce moment pour tous ses concerts.
Et en plus avec un show qui est très très en place, voilà.
Donc c'est okay. La seule.
On a eu Lala Rami, on a Lala Ace.
Oulala dans le prénom.
C'est vraiment sur les doigts d'une main, quoi, en gros.
J'avoue que j'en ai pas des mille et des cents en vrai, en tête, en tout cas dans la revendication. Il y a des personnes un peu dans ce courant-là dont on sent que, etc. Après, il y a des personnes, encore une fois, on en revient à cette histoire de risque aussi que les gens ne prennent pas forcément parce que c'est compliqué de le faire, etc. Et qui font sûrement partie du spectre d'eux, mais je pense que dans les gros noms, il y en a.
Je me posais la question, et en fait, ouais, c'est pas revendiqué. Là, on a parlé de la laïs parce qu'en fait, elle est lesbienne, et que bizarrement, ça marche parce que dans l'image masculine du rap, deux meufs ensemble, ça reste cool. Tu vois,
pense que c'est pour ça.
Moi, franchement, je suis à 100% sûr que le public.
J'espère que c'est pas pour ça.
C'est plus accepté en tout cas que deux hommes.
Ça, c'est possible. Non, mais je suis certain. Et tu vois, on n'a pas en France un profil comme Tyler, tu vois. Tyler, The Creator, qui est ouvertement...
Il est homosexuel, il l'a dit, déjà.
Oui, complètement.
Je savais pas ça.
Frank Ocean aussi.
Plus R&B. Mais justement, effectivement, tu fais bien de faire le parallèle avec les États-Unis, parce que là, par contre, il y a des personnes, et je dirais même qui je sais pas si ça se dit, performe la queerness. C'est-à-dire, je parlais de Mickey Blanco, par exemple, qui, en fait, depuis des décennies, presque, maintenant, je pense... travaille autour de ces questions, et ça fait partie inhérente de sa musique, quoi.
Mais par exemple, il y a toujours cette question, donc cette notion de l'underground et du mainstream.
Ça reste underground, ça c'est vrai.
Mais par exemple, quelqu'un comme Lil Nas X, a fait switcher des choses en termes de représentation. Et une fois de plus, c'est pour ça que quand on abordait la question de la queerness dans la musique, il y a aussi vraiment quelque chose qui va bousculer toutes les frontières. C'est-à-dire que lui, il arrive quand même à cartonner avec un titre, qui est un titre country avec le père de Miley Cyrus, qui a cartonné. Ouais. Et qui après arrive avec tout un univers, incroyable. Et en même temps, quand t'écoutes Industry Baby, c'est un bop, un bop improbable, incroyable. Donc musicalement, personne ne peut dire c'est quoi. Et il arrive à, et c'est là, moi je trouve la force et la puissance de l'industrie américaine, c'est que on prouve là qu'on peut marketer un artiste comme celui-ci sans aucun problème, et à en faire une bête à charts, parce qu'aujourd'hui,
parce qu'en fait il faut y croire, il faut avoir envie de le faire, il faut mettre les moyens sur il faut mettre les moyens, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes qui sont capables de, je vous assure que si vous me donnez un billet de 50 000 euros sur un clip, c'est pas la même chose forcément que si t'as 3 000 balles à sortir dedans. Et en fait, il y a plein de personnes aussi qui sont très très douées et qui ont un propos et quelque chose à faire, et des images. J'en profite pour caler que dans pas si longtemps que ça, je pense, il y a un petit clip qui va sortir plutôt sympathique qui devrait un petit peu faire parler. C'est cool. Ça va être un peu différent. Mais oui, en fait, c'est juste, c'est une histoire de moyens, en fait, et de se dire que, genre, tout est marketable. Tout est marketable à partir du moment où on le veut et qu'on
il faut
on
y
le
croire,
fait.
Quoi.
Après, c'est une question c'est aussi de vision. Parce ouais, que, en fait, sur un Lil Nas X, on voit qu'il y a une vision.
Si on cite des personnes comme Doja Cat, Nicki Minaj, qui sont pareilles, ouais. des énormes stars, ouais. Pareil, ça joue sur tous ces codes quand même, des codes LGBT, etc.
Mais parce qu'il y a eu aussi des soupçons de queerbaiting, mm-hmm. notamment pour Nicki. On parle même de stratégie queerness, c'est-à-dire que cette carte-là, et c'est ce que tu disais un peu, mais je vais
c'est bankable, quoi, aux États-Unis.
Bah, c'est-à-dire qu'en tous les cas, ça aide aussi potentiellement à construire un personnage, une histoire, et quand on est sur la sursexualisation, puisqu'on est quand même sur des corps plantureux, et ajouter cet aspect un peu d'une sexualité qui n'est pas normée ou qui est beaucoup plus fluide, et je parle principalement pour Nicki Minaj, en tous les cas, ça permet d'attirer à soi un public qui, pour le coup, lui est vraiment queer, parce qu'on peut aussi avoir certains messages.
C'est ça la vérité, c'est que les trois quarts du public aussi de Nicki, etc., c'est des queers.
Bah oui. Et du coup, c'est aussi pour ça que moi, sur la question de la stratégique queerness, le mot stratégique, c'est il faut l'entendre au sens que ça est, c'est-à-dire la stratégie. C'est-à-dire que aussi, et c'est valable aussi pour des artistes qui sont en dehors du rap, mais voilà, à un moment donné, t'as évoqué le mot safe place. On a des artistes qui sont des artistes de type A et qui disent je te vois, je t'entends, et tu peux venir avec moi dans cette musique. Qui était dite pas faite pour toi. C'est pour ça que je parlais du public. C'est un élément important qu'il faut pas sous-estimer. Au contraire, lui, il a besoin d'avoir des artistes effectivement qui lui ressemblent. Il a besoin d'avoir des artistes.
Et puis il valide une stratégie commerciale aussi, le public.
Bah, en tous les cas, c'est une stratégie.
C'est-à-dire qu'il répond pas. Si on a tenté un truc commercialement et que le public ne répond pas, on perd de l'argent.
Et là, aujourd'hui, on peut pas dire que après, bon, Nicki, la carrière de Nicki est une carrière particulière. Celle de Doja aussi. Ouais. Il y a des virages pop à un moment donné, mais il y a aussi une assise de stars, etc. Mais effectivement, il y a en tout cas des artistes. Mais par exemple, moi, il y a des groupes qui m'ont marqué comme Yo Majesty, qui était un groupe du début des années 2000, qui était basé en Floride, qui était deux femmes noires, loxées, qui ont fait une musique à un moment donné, qui parlait aussi, parce que moi, je pense que la question de la représentation aussi, de la question de la queerness, la question aussi donc de LGBTQI+, il y a aussi cette notion aussi, moi, que j'associe forcément toujours à la question de la race, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu arrives avec un projet comme Yo Majesty et que vous êtes deux femmes noires qui viennent cracher, quand je dis cracher, c'est cracher dans le micro.
Spit,
exactement, c'est pas cracher. Il y a quand même quelque chose qui est aussi très puissant, et on peut pas, même si effectivement il y a la notion de marketing, de commercialisation, nier le fait qu'il y a une dimension aussi politique et que le marketing de cette politique-là fait effectivement aussi avancer les mentalités. Et ça veut dire aussi, et ça, les États-Unis sont aussi beaucoup plus forts que nous, ça veut dire aussi que les publics sont prêts pour ça. Nous, notre problème en France, c'est qu'on dit toujours, non, le public n'est pas prêt à voir telle et telle personne, et là, bam, Lil Nas X.
En fait, c'est ça,
star,
c'est juste qu'à partir du moment où, encore une fois, quelqu'un met un petit peu d'argent, etc., et montre que, par exemple, pareil, je pense que si j'avais pas eu une occasion comme Drag Race de faire du rap, etc., et de montrer qu'une drag queen faisait du rap et tout ça, ben, en fait, je pense que personne, s'il n'y avait pas eu Drag Race, personne, aucune maison de disque ou rien du tout, se serait dit, ah bah oui, on va mettre une drag queen qui fait du rap, etc., et puis on va mettre un petit peu d'argent et on va se dire que ça va marcher. Et la preuve en est, j'ai quand même un public, j'ai des gens qui sont là et qui écoutent et tout ça, et il y a des plafonds de verre en fonction de quand on est seul, quand on n'est pas seul, si on est aidé, poussé, etc., machin, par l'industrie. Mais en l'occurrence, je pense avoir au moins prouvé déjà que c'était faisable d'une certaine manière, en tout cas qu'il y avait des gens qui étaient là pour écouter ça. Et t'as tout à fait raison sur le fait que ça fait évoluer les mœurs, etc. Et surtout, ça fait vendre, parce que la queerness, c'est plein d'idées créatives qui sont sans limite en vrai. Et c'est pour ça que Nicki Minaj s'en est servi, c'est pour ça que plein d'artistes s'en servent tout le temps et tout ça. Parce qu'en fait, avec la queerness, on peut faire ce qu'on veut. On peut aller dans n'importe quel... Rien n'est véritablement interdit. On le voit bien avec Lil Nas X qui est même allé du coup sur le terrain religieux, etc. Et qui a été justifié par le fait que bah, du coup, c'était dans une forme de queerness et tout ça. Les gens pas queer font pas vraiment ça. En fait, ils font pas ça. Et du coup, on sait que ça fait vendre parce qu'il y a un truc un peu de la provocation. Et voilà.
et ça fonctionne. Et du coup, bah, y a des gens qui s'en sont servis maintenant et qui.
Et puis, il y a la notion aussi d'attitude. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est aussi sur, dans la pop culture, il y a aussi des images marquantes et il y a des attitudes. Par exemple, il y a des gestes qui sont récupérés. On parlait aussi d'autres genres. Mais par exemple, le voguing, qui est une musique aussi pareille, où il y a toute la dimension. Enfin, c'est pas une musique, mais je veux dire, le mouvement voguing et cette culture-là.
Tu rappelles ce que c'est très brièvement.
Voilà, bah, c'est une culture qui est née aux États-Unis aussi, dans les communautés marginalisées plus, LGBTQI, plus, latina et afro-américaine. C'est vraiment la jonction de ça. Et qui a créé, et qui justement a adopté en fait les gestuels des magazines de mode, un peu sur le principe de ce que tu disais, c'est-à-dire de dire
Voguing,
en fait.
Voguing, c'est référence au Vogue, au magazine Vogue.
Au Vogue, magazine Vogue, effectivement.
Au concours de pageant aussi, beaucoup dans lesquels elles étaient justement les femmes transgenres, noires, etc., étaient exclues des concours du coup, de beauté et tout ça, elles ont en fait créé les leurs.
C'est ça, pour pouvoir justement avoir aussi exister, un espace et après c'est aussi toute une un mode de vie, un art de vivre. La série Pose est plutôt juste sur comment ça se passait.
C'est aussi une forme de danse, on peut dire ça comme ça.
C'est une forme plutôt de culturelle.
Oui, c'est ça, c'est plus on se retrouve dans la danse, dans les balls.
Voilà.
Les balls du coup sont la représentation justement
c'est une des pratiques au sein
du concours en fait, c'est ça voilà.
Parce que tu peux voguer mais tu danses pas forcément parce qu'il y a aussi des catégories où par exemple ça va être plus face,
body, etc.
C'est ça, c'est pas forcément. Mais donc après il y a aussi un aspect hyper spectaculaire effectivement avec, et puis c'est aussi un langage, c'est-à-dire que la danse est très codifiée avec un langage. Il y a un MC aussi, il y a un rythme particulier effectivement dans le ball. Et après il y a aussi tout un aspect aussi culturel vraiment de community organizing, parce que c'est aussi beaucoup de personnes qui étaient marginalisées en raison de leur orientation, etc., et qui du coup se faisaient jeter dehors, qui n'avaient donc plus d'endroit pour pouvoir vivre. Et donc il y a tout l'aspect des house avec les mothers qui donc accueillent leurs kids et qui donc c'est toute une structure donc de maison avec les mères, les enfants. Et donc on est dans une maison et on va au ball, on va voguer avec sa famille.
Ils ont vraiment créé tout un univers.
Voilà, parce qu'en fait, il y a aussi une...
Est-ce que, je t'interromps un peu, pardon, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. En fait, il y a une interview encore derrière, donc on essaie de faire au mieux. Mais est-ce que, ça peut être une conclusion, est-ce que l'horizon, un horizon peut-être plus ouvert, où les gens peuvent être eux-mêmes, où il y a plus de représentation, etc., dans le rap, ça passe aussi par justement ce mélange musical, des cultures, des mouvements, c'est-à-dire que, alors on les a pas trop cités, mais c'est vrai que la house qui partage ça avec le disco, où il y a une vraie communauté LGBT extrêmement importante, alors que c'est une musique quand même qui vient des populations afro-américaines défavorisées, minorisées, etc.
Parce qu'il y a plein de personnes LGBT aussi au sein de ces communautés-là.
Bien sûr, pareil pour la techno, pareil pour le voguing, et on voit quand même que le rap s'ouvre du son house dans le rap, on en entend régulièrement par exemple. Ouais. Est-ce qu'on peut, c'est naïf, ou de se dire que à travers le mélange des esthétiques sonores, il y aura peut-être aussi un peu des bouts de culture qui vont se partager, des acteurs différents qui vont se mélanger, et qu'on aura un peu plus de représentation dans le futur, ou...
Non, moi je pense que c'est une bonne chose, le mélange, à partir du moment où c'est fait avec respect, avec la connaissance...
C'est beau de tendre vers ça, je pense.
Bien sûr, avec
mais
la connaissance de la culture.
Ça reste
naïf
quand même.
Je crois aussi un peu, je sais pas.
Moi j'aimerais que, une fois de plus, les personnes aient le droit de faire la musique qu'ils ont envie de faire, sans que, par exemple, pour la question de Madonna... Enfin, c'est Madonna qui popularise le voguing, et en fait la problématique, moi, pour moi, toujours, c'est la question effectivement du financement et de qui a le droit ensuite de faire quoi. Moi c'est ça qui me gêne, c'est-à-dire qu'à un moment, pareil pour Lil Nas X, il pète aussi parce qu'il est en feat avec le vieux daron de Miley Cyrus, qui est un mec blanc bien installé dans la country. Donc il y a quand même encore ce gatekeeping qui est fatigant, c'est-à-dire qu'on a le sentiment, et par exemple l'acharnement raciste et sexiste, donc misogynoiriste que vit Aya Nakamura est l'exact exemple de ça, c'est-à-dire on peut pas être juste une femme noire venue qui a grandi en banlieue, qui revendique pas spécifiquement, mais qui est juste ce qu'elle est et qui se renvoie.
Et on ramasse mille fois plus que les autres.
Alors que tu vends des millions d'exemplaires, c'est que t'es écouté partout dans le monde, à l'inter, que tu fais des partenariats de dingo avec des marques de dingo et qu'on va toujours te rappeler, mais tu viens dans le nez et puis ça fait que 2 ans que t'es française. Enfin, il y a un moment où il faudrait juste qu'on ait le droit d'être qui on est et que même le succès puisse faire fermer un moment des bouches, en fait.
Je sais pas si vous avez fait cette remarque en regardant, pardon, juste la cérémonie d'ouverture des JO, quand il y a eu le passage d'Aya Nakamura.
Incroyable.
C'était plutôt cool.
C'était génial.
Mais c'est surtout, je me suis dit, mais tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'elle a fait une perf de 3 minutes et elle a ramassé pendant des mois et des mois pour ça.
Non, le pire, c'est qu'ils avaient jeté son nom en plus en pâture alors que rien n'avait été
signé. En fait, c'est là où tu voyais à quel point c'est disproportionné et délirant.
Oui, mais moi, c'est ça que je trouve aussi et qu'on oublie, en fait. Et on en a pas, enfin, on en a un peu parlé parce que tu t'en parles comment tu te bats pour toi et que tu dois faire deux fois plus. Mais en fait, à un moment donné, tout ça a un coût. Et en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi ce coup doit être porté toujours par les mêmes personnes. À un moment, c'est pas normal que justement, il faille être sur solide pour se dire, je vais quand même faire la prestation que je dois faire. En plus, bon, la symbolique était intéressante. Finalement, c'était pas Piaf, c'était Aznavour sur la langue de Molière. C'est ça que qui a été rendu iconique, en fait. Incroyable. C'est qu'au final, vu qu'on te dit que toi, tu sais pas chanter le français, tu sais pas. Depuis, on va faire une chanson avec Aznavour. Spécifiquement pour dire ça, avec un mashup qui tient, et en plus porter une robe qui me semble la symbolique, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, etc. Pour dire personne va me tuer. En fait, je serai là et je referai des sons et je vais recartonner. Vous allez rien faire.
Même là, elle a été virale encore.
Bah, c'est bien sûr.
La garde républicaine qui avait vraiment l'air de kiffer derrière aussi. Tu vois,
oui,
c'est le symbole incroyable.
Et qui l'a dit. Mais sauf que moi, je trouve que politiquement, il y a une espèce de dissension entre ça et le fait qu'elle se batte pour elle-même, et en plus en disant, moi en fait je m'en fous, c'est vous qui m'aimez pas, moi je fais ma vie. Et en même temps, le fait que le politique l'ait laissé être jeté en pâture, il n'y a pas eu un seul mot, et je trouve ça inadmissible. Parce que quand même,
voire certains l'ont enfoncé, plutôt à l'extrême droite d'ailleurs.
À l'extrême droite, ça a démarré, centre droit. Hein.
Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est important d'injecter de la politique dans l'art et dans les parcours et dans les profils, parce que c'est pas juste une question de est-ce qu'on a juste le droit d'être qui on est. Pour certains, c'est une question de vie ou de mort dans un pays comme le nôtre et avec la violence qui est exercée sur les personnes. Et donc, je pense que oui, on peut espérer qu'un jour le monde sera plus uni, mais en fait, il faut aussi qu'il le soit et qu'il y ait des vrais relais qui ne soient pas toujours les mêmes, donc les concernés, pour dire maintenant, vous allez arrêter de nous faire chier parce que même quand on a du succès, vous nous faites chier.
Ouais, et les non-concernés qu'ils le fassent aussi de la bonne des manières et pas pour tirer le spotlight, etc., sur eux, pour se faire mousser au frais, etc. Voilà, il y a des manières de s'engager aussi. Le truc, c'est pas de dire que quand ça arrange, etc., bah moi aussi je soutiens cette cause-là parce que du coup, à ce moment-là, tu te retrouves sur telle ou telle émission et que ça fait bien pour toi et tout ça. S'il y a un vrai engagement qui doit être fait de la part de certaines personnes, faut que ce soit un vrai engagement. Quand c'est les hommes qui veulent parler de la cause féministe, par exemple, bah c'est la même chose. Ça, on ne dit pas non que les hommes n'ont pas à s'engager, au contraire, dans la cause féministe. C'est juste que le mansplaining, par exemple, c'est non, quoi. En fait, c'est qu'il y a des manières de faire. Et si justement on est véritablement féministe, on sait et on est censé savoir de quelle manière on est censé le faire aussi.
Bon, en tout cas, le fait de se dire la musique c'est pas anodin, ça fait partie d'une société, on peut aussi avoir un prisme plus politique entre guillemets pour en parler. C'est ce qu'on a essayé de faire dans cette émission. Effectivement, c'est important. Parce que c'est pas... Certains disent juste c'est les goûts et les couleurs la musique, mais c'est pas vrai.
Non.
Même quand on juge en fait un truc, on pense d'un point de vue purement artistique, il y a toujours un truc qui entoure tout ça.
On pourrait parler de la question du goût et de comment il est dicté
évidemment.
Par...
Bien sûr.
C'est pour ça que le...
Grand thème de la sociologie, le goût.
Voilà.
C'est pour ça que le coup de... Le public n'est pas prêt, pour moi, c'est...
C'est facile.
C'est un prétexte.
Nous qui éduquons le public,
c'est
en
un
fait.
Prétexte en fait, parce que le public il est parfaitement, en fait le public il prend ce qu'on lui donne, donc quand on dit, quand une maison de disques te dit non mais le public est pas prêt, c'est juste qu'elle a pas envie de s'investir.
Et puis le public écoute d'autres artistes qui sont pas forcément les artistes que vous voulez pas pousser ici, mais qui peuvent s'inscrire dans la même mouvance,
bien
donc
sûr,
c'est...
Bien sûr.
Les amis, il faut qu'on se... enfin, vraiment qu'on termine, parce que sinon Patricia derrière, je la vois, elle a un couteau dans les mains comme ça. Non mais par contre il faut quand même la reco, donc très rapidement. Piche, quel était le morceau que tu voulais faire découvrir? C'est une tradition dans DLT, on termine toujours avec une recommandation.
Du coup, vu qu'on était dans une thématique de rap, je dirais Ego Trip de Naira, qui est une rappeuse que j'aime beaucoup.
Naira, tu as bon choix, tu as bon goût.
Voilà, et ce son, il est tellement lourd. C'est pas, c'est un de ses plus connus, mais je suis obligé
de s'écouter un extrait. Naira, Ego Trip, c'est très bien, Naira. D'ailleurs. Let's go.
Je vise pas le succès, je vise pérennité. Aucune humilité, sont pourtant imités en grande majorité. T'inquiète, je suis sûr de moi. Je suis venu changer les lois. Je te rends ce que tu m'envoies. Envoie-moi chier, tu reçois. J'ai la tactique technique comme Katana. J'ai gagné sur le beat, insolente comme Saitama. Envoie le mic, mais tu sais pas où t'as mal. Tu nous parles de Broly, arrête ton cinéma. Les mots pas.
trop de questions me taraudent. Est-ce la bonne voie? Suis-je sur la bonne route? Quand j'y suis presque parasite sur mes côtes.
Ego Trip de Naïra. Dolores. Ton morceau, toi ?
Bah, du coup, j'ai un peu switché aussi pour une rappeuse. À la base, c'était pas forcément ça mon idée. Mais une artiste qui s'appelle 47 Méo,
okay.
Que j'aime beaucoup. Il y a plein de titres, mais il y a le titre 47 Slick, par exemple, qui est justement, elle a fait un EP là récemment avec une productrice et beatmakeuse. Et je trouve ça très prometteur. J'aime bien la manière dont elle fait les choses. Elle est très bien sur scène. Voilà.
Et ben, écoute, et elle est avec Am Slick.
C'est ça, qui est la productrice beatmakeuse. Et le projet, je l'aime beaucoup.
Et ben, on écoute ça, 47 Slick.
J'ai plus que de l'amour pour quelques personnes et les seront. Ouais. Leur taf c'est de te faire douter de toi et ce que tu vends. Ouais. Coucou la maman yo, calme en caramello. En palit en baillon, ce qu'on vit c'est vrai c'est chaud. Mais j'en ai plus rien à faire. Et je fais ce qu'ils ne savent pas faire. Ça voudrait me parler d'oseille. Ça voudrait me parler de casa. Je m'en fous de savoir combien tu gagnes. Ce qui compte, c'est ce que moi je gagne. Ouais. Ça voudrait me parler d'oseille.
Ok, 47 Slick, 47 Méo. C'était très bien.
C'est cute. De ouf.
Daz.
Yes. Un morceau.
Enchaînons.
Qui s'appelle International Waters de Ramirez. Ramirez, un artiste de la Bay Area de. En Californie, donc San Francisco, Oakland,
okay.
Qui est en feat avec Jay Worthy, ma mascotte de Compton. Pour moi,
c'est dazesque, c'est dazesque.
C'est totalement dascore.
Allez, c'est parti, International Waters.
Yeah. Go get you some money, player. Ain't no reason for you to have empty pockets, you hear me? Cowboy Bebop, chief and drinking some OJ while my bitch cooking some football. Chilling my road with not a worry in mind. Catch me swinging my Callaway just to pass up the time. Player, international pimping, foreign waters, what I'm sailing. German engineer, Mercedes AMG, I'm racing. Natural wine, I'm sipping, just thumbing through my C-notes. 20,000 tucked in the envelope inside my Pico.
T'as tué ça? C'est très bien.
L'ambiance.
Tu sais quoi, ça me fait penser à du funk.
Ouais,
je trouve que c'est un délire un peu funk.
Soudière, ouais.
Ouais, tu vois, genre délire,
c'est
effectivement.
C'est les mêmes samples et tout. C'est...
Ouais.
Ramirez, vraiment, écoutez l'album, là, il vient de sortir. Mais toute sa disco, elle est très très bien, cet artiste.
Et je termine avec un morceau de Blood Orange. Un morceau qui s'appelle You're Not Good Enough. Je me suis replongé, en fait, dans le cadre d'une vidéo que je suis en train d'écrire en ce moment, dans une vibe 2010. Pop, R&B, électronique, parfois un peu expérimental et tout, dont Blood Orange, et c'est très très bien. Et ce morceau est très princesque.
Oh.
Voilà, let's go.
Que de promesses.
Looking over friends.
Voilà, tout
très
le morceau.
Princesse, hein, dans la délivrance.
T'as vu?
Je me demande pas pourquoi, mais ça m'a fait penser un peu à Kate Bush.
Côté Kate Bush? Ah, c'est le côté Tête 80s,
ouais,
c'est les chanter
un peu,
peut-être,
c'est possible.
Le début, j'ai eu un « Ah ». Je sais pas.
Ça donne un peu
bon, en tout cas, globalement, Blood Orange, ça claque. Merci beaucoup, Dolores Bacchella, Piche, c'était ultra intéressant. Merci.
Cette émission aurait pu faire 8 heures.
Ouais, mais il faut vraiment qu'on s'arrête.
On a survolé, il faut faire un numéro 2.
On avait parlé de plein d'autres trucs dont on aurait pu, mais bon, c'est pas grave.
En 2 heures, ça rentrait pas, je pense.
Bah oui, mais c'était intéressant, j'espère en tout cas.
Très, très
dites-nous
cool.
Si ce premier épisode vous a plu. On revient de toute façon dans 15 jours.
Dites-leur.
Nouveau sujet, nouvel invité d'Az, ça sera forcément bien.
Évidemment.
Ciao.
On ne remercie pas la bouclette, Thomas.
Mais si, bien sûr, tu as raison. Vas-y, Daz.
Merci, Thomas. J'ai pas le mug. Merci, Thomas. Merci, la bouclette. Iris, Flavien, Sam, qui est peut-être parti, je sais pas. Merci, François, qui va pas monter cet épisode.
Oui. Mais on remercie quand même.
On remercie quand même. Voilà.
Et il montrera le prochain, François.
Merci, la vie.
Absolument. Merci à vous, surtout.
Merci, l'automne qui arrive.
Ciao.